Avant de commencer l'épisode, je dois vous parler d'un rendez-vous immanquable dans l'écosystème SaaS. Le 25 et le 26 septembre prochain, en plein cœur de Paris à Station F, c'est le retour de B2B Rocks, l'événement incontournable du SaaS B2B. Et je vais vous donner trois bonnes raisons de vous y rendre. La première, c'est que vous allez rencontrer une communauté mondiale qui regroupe plus de 3000 participants de l'écosystème SaaS, avec des fondateurs, des C-level, mais aussi des VC. La deuxième, c'est qu'ils ont réuni des speakers de classe mondiale venant des plus belles startups comme Asana, Notion, Figma, Aircall, Paddle ou encore YouSign pour parler d'intelligence artificielle, de marketing, de génération de revenus, mais aussi de bootstrapping. La troisième, c'est que vous allez pouvoir connecter avec vos pairs et créer des relations durables grâce à l'atmosphère unique de B2B Rocks. Mais j'ai surtout une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous ai négocié moins 50% sur le prix des billets. Alors pour en profiter, c'est très simple, rendez-vous sur le site de B2B Rocks, b2brocks.co et utilisez le code SASCLUB50, tout en majuscule et tout attaché, pour bénéficier de moins 50% sur l'achat de vos billets. Bref, c'est une super affaire pour un super événement. Et une dernière info avant de vous laisser avec l'épisode du jour, plus vous attendez, plus les prix des places augmentent, alors ne tardez pas, rendez-vous sur le site b2brocks.co pour bénéficier de moins 50% sur vos billets. Bon épisode.
En gros, on a commencé à étudier l'opportunité en septembre 2019. Mais là, c'était vraiment les... On se dit, bah tiens, il y a peut-être un truc à faire. On commence à chercher très légèrement. En octobre, là, on commence à vraiment interviewer des personnes, à commencer à poser des questions, à aller voir, se poser derrière le bureau, à commencer à faire l'analyse de marché, à faire le MVP. Et c'est en novembre que là, on commence à attaquer les choses vraiment sérieusement en se disant, OK, là, il y a une opportunité, on y va. En décembre, en décembre, j'ai fait le bourrin, j'ai mis plein de pages de SEO, et pour essayer de commencer à ranker dessus, à avoir un peu de trafic, et tout de suite, ça a pris. Et derrière, on se retrouve en mars avec, la demande qui explose, avec un SaaS qui commençait tout juste à être utilisable. Et quand je dis utilisable, c'est franchement, faut avoir honte de son premier produit. Là, on était en plein dedans, pour dire à quel point on importait les Excel des personnes qui nous donnait par email, qu'on remplissait nous-mêmes à la mano pour mettre dans le logiciel. Il n'y avait pas d'API, il n'y a pas d'import Excel, il n'y avait pas de possibilité même de faire ça de manière un peu multiple sur le produit. C'était chaotique. Ça marchait peut-être un jour sur deux à 90%. Le reste du temps, il y avait des trucs qui buggaient dans tous les sens. C'était chaotique. Mais ça marchait en fait quand même suffisamment pour répondre à ce pain. Et forcément, là, on a eu énormément de chance avec le Covid. Tu passes d'une feuille de papier physique au digital, s'il y a pas 50 solutions sur le marché, même si on a peut-être récupéré, parce que j'en sais rien, fondamentalement, peut-être qu'on a récupéré que 20% de la demande à ce moment-là, ça fait quand même déjà beaucoup de demandes. Donc, on passait vraiment, enfin, moi, le Covid, c'était du 16 heures par jour, mais no joke, je pense que jamais de ma vie, je retravaillerai autant. C'était juste hallucinant, quoi. Je me faisais réveiller par des calls clients à 8 heures du matin, je mangeais en étant en call, c'était des trucs délirants que je recommande à personne, quoi. Donc, on a eu de la chance de ce point de vue-là.
Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple, vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SaaS Club. Je suis à nouveau avec Elliot, deuxième tentative. Elliot, le CEO d'EduSign. Bienvenue à toi, Elliot.
Écoute, merci Eric. On espère que ça va pas planter cette fois-ci. Merci de m'accueillir en tout cas aujourd'hui dans l'épisode.
Ouais, on a eu un petit souci là au bout de 5 minutes, donc on croise les doigts pour que ça se passe bien. Mais donc on l'a refait. Tout simplement. Donc EduSign, je présente rapidement. Donc EduSign, c'est une plateforme SaaS qui permet d'automatiser et de digitaliser la gestion de l'assiduité des apprenants, mais pas que. Tu vas nous en dire un peu plus. Et ça s'adresse aussi bien aux organismes de formation qu'aux grandes écoles, mais aussi aux entreprises. Et à date, vous avez quoi? Plus de 1500 clients, c'est ça?
C'est ça. Donc, ça dépend comment tu comptes, mais on a effectivement à peu près 1500 clients payants, parce qu'on a des établissements donc qui ont un compte, mais 50 écoles. Donc, si on regarde les établissements finaux, on a 2500, 3000 à peu près établissements en France.
Et ok, ça pose les bases. En termes de d'utilisateurs final, ça c'est un peu, c'est quel volume en face de ça?
Donc ça dépend comment tu comptes. On a des personnes qui viennent pour une formation très courte, donc sur 2-3 jours, et qui vont utiliser du Sign juste sur cette période et pas trop revenir, en tout cas à moins qu'ils aient une autre formation. Donc là, si on regarde vraiment la totalité des apprenants, on en a à peu près 2 millions sur l'année 2023, ce qui représente à peu près 35 millions d'émargements, de prise d'assiduité, peut-être donner un meilleur ordre d'idée de la chose. Et si on regarde les étudiants, finalement, en tout cas la population qui revient chaque semaine, chaque mois, on est à peu près sur 300 000 utilisateurs réguliers sur l'application.
C'est des beaux chiffres, tout ça, tout comme l'ARR. 3 millions d'ARR est rentable après 3 ans et demi, bientôt 4. Super parcours. J'ai hâte de creuser et de voir un peu comment est-ce que vous avez construit tout ça. Aujourd'hui, on va parler principalement, de trois choses. On va parler de vente SMB et Enterprise parce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes allé dès le début et je trouve que c'est très intéressant et la vélocité que vous avez eue d'un point de vue commercial, elle est assez impressionnante en si peu de temps. Tout ça, ça a été soutenu par un marketing qui est bien rodé. On va parler un peu de SEO, de votre stratégie de podcast, puisque vous avez lancé un podcast pour exister sur votre marché. Et je pense que vous en êtes servi aussi peut-être dans votre stratégie derrière de prospection. On va parler aussi des webinars, enfin bref. Tous les leviers que vous avez activés. Et enfin, on va parler de pricing, un sujet sur lequel vous avez pas mal itéré sur les 3-4 dernières années. Vous avez fait x4 sur vos prix. Donc là, je pense qu'il y a des learnings assez intéressants à la clé. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu as fait avant de lancer EduSign?
Oui, ok. Alors, moi, je viens de l'entrepreneuriat déjà de base, hein, tout le temps. J'ai jamais été vraiment employé, si ce n'est en alternance à Capgemini pendant un très court temps. Et dès l'âge de 16-17 ans, je commençais à lancer des sites. Alors, un peu comme pas mal de monde, hein, des petits sites e-commerce au début, on lançait ça, ou faire des petits sites en SEO. Donc, en fait, ça m'a permis d'avoir des bonnes bases en marketing, surtout savoir... qu'est-ce que le copywriting, savoir écrire des pages de vente, savoir aller vite finalement aussi sur Internet, savoir commencer à gérer quelques API, savoir ne pas avoir peur finalement de créer aussi sur Internet. Moi, j'ai vendu aussi des formations en ligne avec Udemy. Il y en a, je crois, un peu plus de 25 000 étudiants qui ont vu mes cours avant de se lancer dans EduSign. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on retrouve le côté formation, le côté marketing dans EduSign. Donc, on voit qu'il y a quand même des liens qui se font. Et donc, assez naturellement, au bout d'un moment, quand on a vu un problème en cours, donc là je parle de la genèse du projet, hein, d'EduSign, comment c'est arrivé. On était donc deux étudiants en cours à l'école de commerce à l'ISEG à Paris. On se retrouvait à signer des feuilles de présence papier, parce que c'était avant le Covid. Enfin d'ailleurs, il y a toujours des gens qui utilisent des feuilles de présence papier, mais donc on se retrouvait à signer des feuilles de présence papier, ce qui est pas tellement dérangeant en soi, mais en fait ça devient assez dérangeant quand vous commencez à perdre une feuille de papier, une deuxième feuille de papier, que l'intervenant court après la feuille, que les étudiants aussi, que l'administrateur ne sait pas où il est, et surtout quand on réalise que derrière, c'est le financement de la formation qui est géré par cette feuille, parce que c'est un peu comme une facture, hein, en fait, globalement, une feuille de présence en alternance, en tout cas en formation, c'est vraiment une preuve que la personne est bien allée en formation, donc on peut la rémunérer. Et on peut rémunérer l'école, en tout cas, dans le cas présent. Donc, ce qui fait que si on perd une feuille, on perd plusieurs centaines d'euros, et donc avoir un petit outil qui permet de sécuriser tout ça peut être intelligent. Donc, on s'est lancé très rapidement sur un petit POC en se disant tiens, en quelques week-ends on va peut-être arriver à faire un petit MVP, un petit truc qui va faire un petit peu de MRR qu'on va vendre à notre école, si on a de la chance, à 2-3 écoles, et puis on fera quelques centaines, quelques milliers d'euros de MRR. Et en fait on a très vite réalisé qu'on n'avait rien compris au problème, c'est-à-dire que le vrai problème, c'est pas la feuille en elle-même, c'est-à-dire digitaliser la feuille. En fait, si vous êtes étudiant, vous allez arriver à le faire assez vite, c'est pas très compliqué en soi, c'est pas un énorme projet, c'est-à-dire qu'on regarde comme ça et du sign, on se dit pas c'est un gros truc. En réalité, nous on passe 95% de notre temps à développer la plateforme pour les administrateurs, parce qu'il y a des connexions, des intégrations avec l'ERP, parce qu'il y a plein de petites automatisations, parce qu'il y a énormément de choses en fait à faire pour les administrateurs. Et pour donner un peu un ordre d'idée de ce que ça permet aujourd'hui de faire, on a deux personnes à plein temps dans une école de commerce de 2000 personnes qui s'occupaient uniquement, quasiment uniquement de l'assiduité. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne, bon, désolé pour l'autre, mais qui s'occupe 2 heures par semaine de l'assiduité, tout au plus, pour là vraiment aller au fond du sujet, c'est-à-dire accompagner les étudiants en difficulté et pas juste rentrer dans un tableau qui était présent ou absent, ce qui est un peu absurde aujourd'hui, honnêtement. Voilà, donc maintenant, on a une solution qui fait de l'assiduité, aussi des questionnaires, de la signature électronique de documents, donc ce qui permet d'avoir un scope un peu plus global et d'automatiser la gestion des documents pour les apprenants, donc que ce soit dans l'école de commerce, mais aussi, comme on l'avait dit plus tôt, donc pour les organismes de formation, qui est la cible un peu naturelle, puis une cible qui a été un peu moins naturelle et qu'on voit doucement arriver chez Ducène de plus en plus, ça veut dire, c'est les entreprises qui, elles aussi, ont besoin de suivre la civilité des personnes dans leur formation et finalement n'ont pas les bons outils pour le faire, en tout cas pas les outils suffisamment bien automatisés.
Ok, super intéressant là-dessus. Moi, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur cette partie genèse, sur le contexte. Qu'est-ce qui fait que tu t'es ramené, enfin que t'en es venu à signer des feuilles d'assiduité? Comment est-ce que tu t'es retrouvé un peu dans ce monde-là?
Comment je me suis retrouvé à signer les feuilles? Bah, je pense qu'on a tous signé à un moment ou à un autre une feuille de présence, hein, que ce soit pour un événement, que ce soit pour une formation. D'ailleurs, on le faisait même bien souvent quand on était tout petit, même déjà au collège. Et d'ailleurs, c'est un sujet, nous, qu'on n'attaque pas l'éducation nationale, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de feuilles dans l'éducation nationale. Donc, c'est quelque chose qui est assez naturel. Hein, donc, c'est comme ça que c'est venu. Hein, on l'a vu directement en cours. Et on a essayé. D'ailleurs, on a fait énormément de tests en classe, avec nos classes, et tous nos projets pendant les 2 années... Pour te dire à tel point, hein, j'ai des personnes qui me parlent plus vraiment de ce master parce qu'on les a saoulés en fait. On faisait tous nos projets par rapport à EduSign. Et la 2e année, on s'est même embauché sur la boîte pour travailler du coup dessus. Donc c'est ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que j'ai embauché mon associé sur une autre boîte et il m'a embauché sur EduSign pour qu'on puisse tous les deux travailler finalement sur EduSign.
Ok. Et c'est quoi qui vous a, je dirais, convaincu qu'il y avait une véritable opportunité? Parce que en fait, là, on parle d'un marché de l'éducation. Tu me parles de l'éducation nationale. C'est pénible, hein, de leur vendre quoi que ce soit. C'est pas forcément les plus grands risk takers, on va dire. Et là, en fait, tu t'attaques à un secteur où en fait c'est un gros morceau, quoi, en face.
Ouais, mais en fait, alors. Moi, le truc, c'est que je suis pas un entrepreneur chevronné, hein. J'ai pas 20 ans d'expérience avec 5 startups. Je savais pas quand comme je me lançais, hein. Si je relance demain une boîte, je sais pas si je referais la même chose. Et d'ailleurs, probablement pas, à vrai dire. Non, là, c'était plus par opportunité. Moi, j'ai lancé plein de projets. Donc, tu vois, il y avait Udemy, il y avait des sites en SEO, en e-commerce, etc. Mais en réalité, il y a eu plein d'autres petits projets. Et l'idée, c'était surtout d'apprendre très vite. Donc, moi, j'aime bien cette philosophie de dire, si tu peux lancer, donc, par exemple, si on prend le e-commerce, la manière dont je vais entreprendre, la vraie chose qui va différer avec d'autres personnes que je vois, c'est qu'on va essayer d'aller extrêmement vite. Donc, par exemple, quand je voyais un ami qui lançait un site e-commerce en 3 mois, on avait optimisé le process pour le lancer en 2 jours. Donc, en 48 heures, donc en 10 heures de travail à deux, t'es capable de lancer un site e-commerce de A à Z, de j'ai l'idée à le truc qui est en ligne, on a la première vente. Et du coup, je teste peut-être 10 idées en 1 mois, là où il va en tester une tous les 3 mois. Donc au final, même si j'en ai 9 qui sont pourries, il y en a une qui va marcher. Donc EduSign, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que des logiciels, des petits trucs, il y en avait déjà d'autres. Là, l'idée, c'était de lancer quelque chose, de voir si ça prend. Et on se retrouve finalement avec quelque chose qui marche, et tant mieux. Mais ça aurait pu être tout autre, à vrai dire. Par contre, je dirais quand même qu'une fois qu'on a compris que ça marchait, en tout cas qu'il y avait une petite traction, là, on s'est sérieusement mis dessus et on a accéléré. Donc je pense que c'est une question de prise d'opportunité plus que de réflexion à la base en se disant c'est une bonne opportunité. On le savait pas en fait, on a dû aller le comprendre et le découvrir, et surtout comprendre qu'il y avait des concurrents par exemple qui étaient pas, parce que faut le dire, hein, parfois il y a des idées qui sont peut-être bonnes, mais il y a déjà des super exécutants sur ce marché, ça sert à rien d'y aller, hein. Moi, s'il y a une autre startup qui a levé 100 millions dessus et qui est déjà en France, je vais probablement pas y aller, alors que si je vois que c'est une petite PME qui fait quelques millions mais qui est pas top, il y a peut-être un truc à faire dans ce cas-là. Donc, faut aussi, je pense, prendre les combats qu'on peut gagner, quoi. Ça aide.
Justement, je serais hyper intéressé que tu reviennes un peu sur les premiers mois, sur comment est-ce que vous avez exploré cette opportunité. Tu vois, tu as parlé de POC. Comment est-ce que tu as validé aussi la viabilité sur un plan commercial, parce que vous êtes vous êtes pas bootstrap, mais vous êtes quand même sur un mode de croissance, je dirais, qui est sain, tout simplement. Vous êtes rentable aujourd'hui et ça se passe bien. Donc, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu les 6 à 12 premiers mois? Comment est-ce que vous avez testé cette idée? Comment est-ce que vous avez validé des hypothèses?
Alors pour le côté bootstrap, en réalité, on a quand même bootstrap et du sign jusqu'à 400 000 d'ARR. Donc, il n'y avait pas forcément besoin de quoi que ce soit pour se lancer. Et on a levé 1 million en novembre 2021 et on n'a pas utilisé, en fait, l'argent. Donc, véritablement, in fine, et donc ça nous a acheté de la confiance et on est relax, mais c'est comme si on était bootstrap, finalement. On a toujours été rentable chaque année. Donc, ça, je pense que c'est un petit point qu'on peut peut-être quand même évoquer. On peut arriver là, en tout cas, sans lever de fonds complètement, sans aucun souci, avec la même croissance, je pense, que ce qu'on a eu. Donc, comment ça s'est passé au début? Au tout début, déjà, c'était comprendre le problème. Donc, le premier truc, ça a été d'aller voir dans notre école, pour commencer, hein, c'est simplement, qu'est-ce que était vraiment le process de gestion de ces feuilles de présence après l'avoir signé? Parce que, ok, signer la feuille, tout le monde le voit, tout le monde le comprend, c'est très clair, c'est dans la classe même. Et d'ailleurs, c'est un avantage quand on vend le produit, tout le monde comprend ce qu'est une feuille de présence. En revanche, ce qui se passe derrière, c'est flou et ça dépend de l'école. Donc là, je me suis littéralement assis pendant quelques heures derrière la personne qui gérait les feuilles, en regardant qu'est-ce qu'il faisait, quel logiciel il utilisait, quelles tâches il faisait manuellement, à qui il parlait, pourquoi il envoyait les trucs, et poser énormément de questions. Donc ça a été fait avec l'école, ça a été fait avec d'autres personnes dans d'autres écoles qu'on a contactées. Donc là, ça peut être par les amis, par le réseau, par LinkedIn. Franchement, la plupart des gens répondent à des étudiants. Si on est sympa, il n'y a pas de raison de pas tenter sa chance, et on a souvent la bonne surprise d'avoir un échange. Donc on pose la question sur... qu'est-ce que vous faites? Et d'ailleurs, je pense que c'est assez important, parce que moi, ce que je vois bien souvent, c'est: est-ce que vous achèteriez si je faisais ça? En fait, c'est pas une question qu'on pose. On dit pas: est-ce que vous achèteriez? En fait, on s'en fiche un peu, parce que le truc, c'est que le produit, on l'a pas, et c'est une promesse dans le vent. Moi, tant qu'il n'y a pas la carte, ça m'intéresse pas. Donc, le vrai truc, c'était de bien comprendre le problème et de voir si on avait un, quoi. Donc, on a fait ça pour des gens qui n'étaient pas équipés. On a fait ça aussi pour des gens qui étaient chez le potentiel concurrent, pour comprendre est-ce que le produit marchait très bien. Parce que si le produit marche super bien, soit on n'y va pas, soit on va pas réinventer la roue, on va déjà faire ce qu'ils font. Si on voit que ça marche pas bien, et c'était le cas, là, par contre, on s'est dit, ok, là, il y a un gap dans le marché, en fait. Globalement, il y a des gens qui sont pas contents, il y a personne qui propose une autre alternative, donc est-ce qu'on peut pas trouver mieux? Donc là, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes d'innovation. Donc on a inventé quelque chose qui aujourd'hui est standard, en fait, dans notre industrie de l'assiduité, qui est un QR code qui change toutes les 5 secondes pour dynamiser le système de fraude, en fait. Donc c'est-à-dire que si tu veux frauder, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et on le sait, et t'as des systèmes de tracking, etc. Parce que oui, il y a un sujet de fraude forcément avec l'assiduité, c'est pas que gagner du temps. Donc ça, c'était un sujet. C'est aussi surtout beaucoup plus rapide, parce que du coup, avec le téléphone, tu vas scanner, c'est plus rapide qu'avoir une feuille papier ou de le faire avec une tablette, par exemple. Donc ça, c'était le premier élément, c'était de regarder qualitativement qu'est-ce qui se passait, et assez peu quantitativement. Donc là, le côté quantitatif est arrivé après, c'est-à-dire on se dit, ok, il y a peut-être une opportunité, on comprend qu'il y a, en tout cas, il y a un pain, il y a un vrai pain, et on est sur du must-have, parce que c'est quelque chose qui déclenche le financement de la formation. C'est pas juste du nice-to-have en se disant, j'aimerais bien digitaliser, c'est sympa, c'est cool. Non, c'est du must-have. Chaque école se doit d'avoir un système d'assiduité. Après, il peut être plus ou moins bon, mais ils se doivent d'avoir quelque chose. Donc forcément, quand on se pointe, par exemple, tu as besoin de communiquer, si tu préfères envoyer des mails que d'envoyer des lettres. Donc a priori, au bout d'un moment, tout le monde va passer sur les emails. Donc c'est la même chose de mon point de vue sur l'assiduité. Tout le monde va dégager le papier, comme avec les factures, c'est pareil partout, quoi. Donc il y a le problème de dématérialisation, mais donc là, c'est un vrai pain point. Donc une fois qu'on a ça, là, on a regardé les éléments quantitatifs. Donc sur les éléments quantitatifs, ça va être combien il y a de recherches en SEO sur des mots-clés high intent. Donc, par exemple, si je tape émargement en ligne, est-ce qu'il y a des concurrents? Parce que là, à ce moment-là, on cherche quand même un peu plus large en termes de concurrence, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a une opportunité pour nous de se positionner facilement ou pas, par conséquent? Donc tout de suite réfléchir un peu SEO. Et surtout, est-ce qu'il y a du volume? Parce que s'il y avait 10 recherches au total sur le truc, c'est-à-dire que le SEO, c'est pas forcément viable. Est-ce qu'on est bon sur d'autres canaux d'acquisition? Peut-être, mais c'est pas forcément ce que je savais faire, donc ça donne un avantage. C'est-à-dire qu'on réunissait pas mal de combinaisons, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, moi, il y avait mon associé qui commençait à mettre les bases du SaaS en tech. Il s'occupait assez peu, finalement, de regarder ce qui se passait sur le marché. Et donc, on se retrouvait à, d'un côté, avoir quelque chose qui avançait techniquement, de l'autre, une opportunité assez claire sur un vrai pain point, avec une opportunité d'acquisition. Et une fois qu'on a le funnel, parce que faut d'abord commencer par l'acquisition, hein, on va pas se mentir, moi, je pense que le marketing est plus important que le produit. Et je pense qu'on l'a bien démontré, parce qu'on avait un meilleur NPS au tout début des DuSign qu'on l'a aujourd'hui. Je suis un peu triste de le dire, mais c'est parce que finalement, Il n'y a pas forcément besoin au début d'avoir un bon produit. Si on est sympa, et c'est la force d'ailleurs des petites boîtes, vous êtes extrêmement proche des clients. J'ai donné, je pense, le meilleur service client que certaines personnes n'ont jamais eu de leur vie. Ils ont la personne qui gère le truc tout de suite, ils ont leur bug qui est réglé tout de suite, ils peuvent m'appeler n'importe quand, et ils payent rien quasiment. C'était dérisoire. Donc bon, mais là je m'avance un tout petit peu. Donc pour revenir sur au tout début, donc on fait l'analyse de marché, commence à regarder l'acquisition, etc. Et tout de suite le truc c'était de dire comment se différencier. Donc se différencier, ça a été se différencier sur le produit. Et pour se différencier, moi je pense que la marque est assez importante. Donc ça a été de créer un minimum valuable brand, MVB, et de manière assez simple, hein, pas forcément en suivant absolument un framework, mais en se disant quelles sont les valeurs importantes de la boîte. Et surtout, qu'est-ce qui est globalement à l'opposé de ce qui ne marche pas aujourd'hui. Donc, on a pris notre concurrent principal, qui était bleu, boring, qui était vieux, enfin globalement pas fun, pas terrible. On a pris un truc bien jaune, bien pétant. On savait très bien que ça allait nous coûter certains clients sur des grands comptes qui veulent de la réassurance, parce que forcément, on est une jeune startup, tu mets un truc jaune. Bon, ça facilite pas la tâche dans les grands comptes. Hein. Par contre, tu te mets en opposition à l'outil que tu veux éclater finalement. Donc ça a été le premier pas de créer une marque qui est vraiment start-up, là où on était face à aujourd'hui, de mon point de vue, des petites PME ou du papier de manière boring. Donc une fois qu'on a fait ça, là ça a été création du site et ça a été tout de suite faire du SEO avant même que le produit sorte. Donc il y a eu des tests en parallèle. Vas-y, dis-moi.
Je t'interromps juste deux secondes pour bien revenir et qu'on ait tous les éléments de contexte. Donc là, sur ta partie étude de marché, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas juste l'étude de marché. Tu regardes quel pourrait être le go-to-market en face de cette opportunité-là. Et donc je trouve que c'est super intéressant. Mais du coup, donc t'as l'étude de marché, le go-to-market et la brand que tu veux activer. En fait, tu concentres tout ça sur quel espace-temps en fait. Est-ce que c'est sur du 6 mois? Est-ce que c'est sur du, j'en sais rien, un mois et demi? C'est quoi un peu? Comment ça s'est articulé tout ça? Est-ce que c'était en parallèle?
Alors oui, c'était un side project au début. Hein. Moi, j'étais donc en alternance, j'avais les cours, je travaillais pour Capgemini à Lille, donc je faisais des allers-retours entre Lille et Paris. Mes journées étaient très longues, hein, déjà de base. Globalement, je me levais à 6h, je revenais chez moi à 19h, et on travaillait sur EduSign, donc soit en cours, soit le soir. Et donc ça a été tous les soirs, en gros, pendant quelques semaines. Mais donc pour arriver au stade de je commence à vraiment créer le site web, etc. Et j'ai bien compris qu'il y a un vrai besoin et ça y est, on a enclenché le démarrage du codage du SaaS. Il y a eu à peu près 6-8 semaines, si je me souviens bien. Donc en gros, on a commencé à étudier l'opportunité en septembre 2019. Mais là, c'était vraiment on se dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. On commence à chercher très légèrement. En octobre, là, on commence à vraiment interviewer des personnes, à commencer à poser des questions, à aller voir, se poser derrière le bureau, à commencer à faire l'analyse de marché, à faire le MVB. Et c'est en novembre que là, on commence à attaquer les choses vraiment sérieusement en se disant, OK, là, il y a une opportunité, on y va. En décembre, en décembre, j'ai fait le bourrin, j'ai mis plein de pages de SEO et pour essayer de commencer à ranker dessus, à avoir un peu de trafic. Et tout de suite, ça a pris. Et derrière, on se retrouve en mars avec la demande qui explose, avec un SaaS qui commençait tout juste à être utilisable. Et quand je dis utilisable, c'est franchement, faut avoir honte de son premier produit. Là, on était en plein dedans. Pour dire à quel point on importait les Excel des personnes qui nous donnaient par email, qu'on remplissait nous-mêmes à la mano pour mettre dans le logiciel. Il n'y a pas d'API, il n'y a pas d'import Excel. Il n'y avait pas de possibilité même de faire ça de manière un peu multiple sur le produit. C'était un chaotique. Ça marchait peut-être un jour sur deux à 90%. Le reste du temps, il y avait des trucs qui buguaient dans tous les sens. C'était chaotique. Mais ça marchait en fait quand même suffisamment pour répondre à ce pain. Et forcément, là, on a eu énormément de chance avec le Covid. Tu passes d'une feuille de papier physique au digital. S'il y a pas 50 solutions sur le marché, même si on a peut-être récupéré, parce que j'en sais rien, fondamentalement, peut-être qu'on a récupéré que 20% de la demande à ce moment-là, ça fait quand même déjà beaucoup de demandes. Donc, moi, le Covid, c'était du 16 heures par jour, mais no joke, je pense que jamais de ma vie, je retravaillerai autant. C'était juste hallucinant quoi. Je me faisais réveiller par des calls clients à 8h du matin, je mangeais en étant en call, c'était des trucs délirants que je recommande à personne quoi. Donc on a eu de la chance de ce point de vue-là.
Et non mais c'est ton histoire là de l'import Excel et de l'implémentation manuelle, ça me rappelle ce que m'avait dit JB d'Evaboot qui en fait recevait les fichiers, les extractions en fait sous format Excel et ensuite il renvoyait aussi une nouvelle extraction, il me semble, par email. Donc il y avait pas d'interface tout court en fait.
Bah ouais, mais c'est smart, c'est super smart. Moi j'adore, c'est génial.
Ok, donc 8 semaines fin 2019 pour étudier le marché.
Et 8 semaines à 2 heures par jour, hein, grosso modo. C'est ce qu'il faut se dire.
Ouais.
Donc, si on est à plein temps, ça peut aller beaucoup plus vite.
Mais ça me paraissait déjà quand même assez, assez rapide parce que tu étais déjà dans une optique, tu avais déjà produit du SEO, en fait.
À ce moment-là, ouais, on commençait à avoir le site web, on commençait à faire du SEO, mais c'est parce que là, on a vraiment vite, en fait, tu réalises vite, hein, qu'il y a une opportunité quand elle est grosse. Enfin, de mon point de vue, là, elle était quand même assez flagrante. En fait, c'est un marché qui est assez petit, mais par contre, sur ce petit marché, l'opportunité, elle était assez évidente une fois que tu la creuses.
C'est quoi une opportunité évidente pour toi? Parce que je pose la question parce que la dernière fois, je discutais avec un entrepreneur parce que j'ai l'impression que vous avez quand même trouvé votre positionnement assez rapidement.
Ouais.
Et j'ai discuté avec un entrepreneur la dernière fois qui me disait franchement compliqué la phase. Peut-être qu'il écoutera cet épisode, donc je le salue et je vous pose cette question peut-être pour essayer de lui apporter des éléments de réponse par ton intermédiaire. Comment est-ce que t'as trouvé ton positionnement? Ça a l'air d'être évident. Enfin, ça a l'air d'avoir été évident pour vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment est-ce que t'as jugé l'opportunité? Comment est-ce que t'as trouvé ton positionnement?
Je pense que pareil, tu vois, on a eu de la chance. En fait, on a eu de la chance à plein d'étapes. Le truc, c'est que le positionnement est beaucoup plus facile à trouver quand tu te retrouves face à des petites PME ou des vieux logiciels ou des trucs qui sont un peu qui sont pas dans le monde des startups. Tu veux te positionner face à d'autres startups, c'est compliqué, hein. Moi, je suis pas sûr de savoir bien le faire. Par contre, me positionner face à Jean-Michel qui lance son SaaS, mais qui en fait n'est pas dans la tech, ne lève pas de fonds, ne va pas être rapide dans la réponse de ses clients, un site web un peu vieux, un peu boring. Bon, tu prends l'opposé, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une matrice plus que ça. Après, il y a certains éléments que tu vas aller chercher, tu vas aller comprendre quels sont vraiment les pain points que les clients de ce compétiteur disent, et tu vas les mettre en avant, par exemple, sur le site. Tu as des trucs. Alors, on le mettait pas en avant en disant directement ce concurrent est nul, mais pas loin, quoi. Et surtout, on notait bien tous ces éléments pour les avoir. Donc, je sais pas si j'ai la réponse et je sais pas si ça s'applique partout. Là, dans notre cas, c'était ça. Et peut-être que la sauce secrète pour avoir un positionnement facile, c'est justement de trouver un marché où justement il y a ce type de solution, on peut se positionner. Moi, je pense que parfois il y a des entrepreneurs qui se lancent aussi dans des combats qui sont difficiles à gagner, ou en tout cas, s'il y avait 10 autres startups qui faisaient la même chose, je sais pas si j'aurais lancé du side, honnêtement. Probablement pas, parce que c'est un petit marché. Si c'est un énorme marché, pourquoi pas? Tu t'appelles Mastercard, Visa, c'est un marché tellement grand, si t'as l'opportunité d'y aller, même si t'as 1% de chance de réussite, pourquoi pas? Sur notre marché, il faut qu'on gagne. C'est-à-dire on doit être numéro 2 minimum. Si on n'est pas numéro 2 et là maintenant on est numéro 1, c'est compliqué. Donc tu peux pas être le 10e, quoi, ça marche pas. Ou alors tu fais rien. Enfin, je veux dire, tu vas faire 100 000 euros à l'année et c'est cool pour un side project, mais ça reste au stade de side project. Donc là, on a senti qu'il y avait déjà un peu plus de possibilités que juste arriver finalement au stade de side project qui permet de d'avoir un truc qui se maintient sur le côté, quoi.
Et donc les possibilités pour toi, c'est le fait que les acteurs en face ne servaient pas correctement et étaient pas spécialement des boîtes hyper matures, hyper bien établies. Toi, l'idée, c'était déjà de prendre le contre-pied et de...
En fait, tu vas avoir... En gros, le truc, c'est qu'il y a un conseil vraiment que je n'aime pas trop dans le monde des startups, c'est ignorer la concurrence. Et je pense qu'il est très mal pris, ce conseil. En fait, ignorer la concurrence, ça veut juste dire, de mon point de vue, ne pas la copier. Par contre, il faut bien la connaître. Et la concurrence, pour nous, c'était nos concurrents directs, donc qui font des logiciels, ces concurrents indirects. Parce que par exemple, à YouSign, à DocuSign, nous, on avait des clients, et d'ailleurs, il y en a toujours, hein, qui dépensent 5 euros par signature pour avoir un émargement. Nous, en moyenne, ça coûte moins de 10 centimes. Donc, là, tu te dis, déjà, je me positionne, mais tu vois, faut le savoir. Si tu le sais pas, la personne te dit, DocuSign, c'est mieux que vous. Tu dis, peut-être, effectivement, ils ont levé 1 milliard. Enfin, ils valent 50 milliards à un moment. Ouais, ils sont meilleurs, mais ils sont meilleurs sur un truc. Nous, on est meilleurs sur autre chose. Mais à la fin, la concurrence, la vraie concurrence, c'est l'usage d'aujourd'hui, quel qu'il soit. C'est-à-dire que ce soit le compétiteur ou que ce soit le papier. En l'occurrence, nous, notre principal concurrent, à la fin de la journée, ça reste quand même le papier. Si c'est le papier, c'est quelque chose de, de un peu désuet aujourd'hui. On est dans un monde digital, on automatise tout, on parle d'IA, tu peux appeler, on est en train d'enregistrer un podcast en visio, on n'est pas à côté. Enfin, tu peux faire des choses assez dingues et on a toujours une feuille papier. Bon, l'argument, il est facile à trouver dans notre cas. Je pense que dans certains autres cas, c'est plus compliqué, hein, sur des produits déjà tech qui adressent un problème tech. Franchement, c'est plus compliqué. Donc le positionnement, ça va dépendre. Là, en tout cas, pour notre problème, c'était assez clair de se positionner par rapport à ça.
Et donc sur le marché là, si je poursuis, donc tu t'es positionné d'emblée sur le SEO qui était une de tes compétences, et aussi parce que t'as vu qu'il y avait une opportunité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que t'as fait en SEO, comment t'as priorisé, quel budget t'y as alloué, etc.
Ouais. Alors sur le SEO, il y a eu une approche qui a été finalement assez simple. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser 50 outils qui vont me permettre de regarder les stats de mots-clés, les trucs, tu vois, Ahrefs, Semrush, etc., en fait, ça a juste été de commencer à lister qu'est-ce que t'apprêt un humain qui cherche une solution. Donc, du vrai high intent. Et par exemple, tu vois, intuitivement, si tu penses à notre produit, tu vas dire, bah, et du ça, il faut qu'il ranque sur feuille de présence. On a mis 3 ans avant de ranker sur feuille de présence. 3 ans. Parce qu'en fait, c'est pas du high intent. Et maintenant, on ranque, et je sais pas combien on est d'ailleurs, peut-être qu'on est premier, deuxième, mais peu importe. Parce qu'en fait, ce qui vraiment m'intéresse en premier lieu, c'est les mots-clés comme solution, émargement. Émargement en ligne, logiciel, émargement, logiciel, assiduité, établissement supérieur, administration, enfin, tu vois, que des mots-clés comme ça, tu vas les lister. Et après, ça a été un travail un peu manuel, donc, t'en as 50, tu peux utiliser un outil pour aller jusqu'à 100 pour les décliner un petit peu. Ça peut aider, hein. Mais l'objectif, c'était d'abord de regarder sur la SERP, donc sur Google, qu'est-ce qui apparaissait. Est-ce que ce qui ressort, c'est plutôt des articles de blog? Est-ce que c'est plutôt des médias? Est-ce que c'est plutôt un listing de solutions? Est-ce que c'est plutôt un concurrent? Et en fonction de ça, se dire est-ce que c'est plus ou moins facile de ranker et de le mettre en corrélation avec le nombre quand même de visiteurs enfin sur ce mot-clé. Donc là par contre pour ce truc là sur Google Keyword Planner, ça suffit, hein. Tu prends Keyword Cheater pour arriver à générer des mots-clés en plus qui sont connexes à ton mot-clé. Donc par exemple si je prends émargement en ligne, peut-être qu'il va me proposer, je sais pas, émargement en ligne Zoom, émargement en ligne Teams, émargement en ligne, je sais pas, Google Meet, j'en sais rien. C'est des mots-clés qu'on va rentrer dans Google Keyword Planner. On allait regarder s'il y avait un peu de volume. Et un peu de volume, pour nous, vu que c'est du high intent, c'est pas forcément des mots-clés avec 2000 visites. S'il y a plus de 100 visites, c'est déjà bien. Et il y a des mots-clés où je sais très bien que va y avoir 30 visites par mois. Par contre, sur les 30, il y en a 15 qui vont cliquer sur mon lien. Il y en a 5 qui vont s'inscrire. Ça, c'est de leur embarre, ça, pour moi, parce que c'est facile de rank dessus. Les gens, ils sont ultra intense, ils sont prêts à acheter. Et donc, en fait, on a multiplié tout le listing là-dessus. Une fois que t'en as 50, parce que grosso modo, c'était un peu l'objectif au début de se dire, OK, il y en a une cinquantaine. Après, c'est les prendre une par une et essayer d'écrire. Et là, pour écrire, donc, la logique pour rank, ça a été d'écrire les contenus non pas de la meilleure qualité, mais du meilleur ratio quantité-qualité par rapport à ce qu'attend la recherche. Donc si par exemple Google, on voit qu'il aime bien les listings, bon bah on va peut-être lui proposer ça. Et après il y a des queues en fait que tu peux voir sur Google. Donc là on rentre un peu dans le détail, mais si par exemple tu vois que sur un type de requête, par exemple si tu tapes logiciel émargement, logiciel ou logiciel quelque chose, bah, en fait aujourd'hui t'as beaucoup des Hubvisor, des G2, tu sais, qui vont ranker. Ouais. Donc tu peux te dire que Google il aime bien les listings. Donc si tu vois que sur t'as de la chance, t'as une petite niche, pour l'instant il y a pas de listing, bah il peut être intelligent d'abord de faire un listing ou bien d'éliminer carrément ce mot clé. Donc il y a des petits points comme ça et de pas tenter, tu vois, de mettre un article de blog même si c'est un article de blog qui aujourd'hui rank. Donc ça après c'est un choix, mais là on rentre dans le petit détail technique. Honnêtement la plupart du temps c'est assez évident, c'est répondre aux questions de l'utilisateur. Souvent il y a même les questions affichées sur Google, reprenez-les. C'est déjà un bon point. Donc on les reprend. Et après, c'est écrire, mettre la sémantique. Donc, tu peux utiliser des outils comme 1.fr pour rechecker s'il y a bien la sémantique. Mais souvent, c'est juste remettre les mots-clés de la requête. C'est déjà pas mal. Mais après, mettre du maillage interne entre les pages. Donc, ça, c'est utile. Donc, on essaie d'avoir une page un peu parente. Une page parente avec feuille de présence. Et tu vas décliner. Tu vas avoir, par exemple, feuille de présence digitale, feuille de présence numérique, feuille de présence à distance. Donc, on va relier toutes ces pages avec la master page, on va dire, qui est sur la home page, par exemple. Et s'il y en a une qui commence à vraiment bien ranker, qui nous intéresse particulièrement, on va peut-être même celle-là la mettre sur la home page, que ce soit sur le footer, le header, peu importe. Donc, du maillage interne. Et une fois que t'as tout ça, en réalité, le contenu, il commence déjà à ranker. C'est-à-dire, même avec zéro de domain authority, sans backlink, d'ailleurs, de manière assez amusante, on a ranké sur des mots-clés, comme par exemple, émargement Zoom, émargement Teams, devant Zoom ou Teams. Alors que ça, a priori, on est moins expert sur ce sujet que Zoom ou Teams. Mais finalement, vu que la page, elle est un peu optimisée, le contenu est pertinent, on passe devant, mais sans backlink vers cette page, et même quasiment sans aucun backlink vers EduSign à l'époque. Donc après, il y a un travail quand même d'aller chercher des backlinks avec EduSign. Donc là, je peux donner quelques tips. Mine de rien, au tout début, mettre son lien sur son site sur des listings, ça peut aider. S'ils ont quand même des bons domaines rating, on peut trouver des forums, certains forums, par exemple le forum d'Open Classroom, super, ils ont un DA de genre 80, t'arrives à mettre un lien dessus, c'est cool. Donc essayer de trouver des petits trucs comme ça, ça peut aider, ça commence. Et après, nous, il y a une astuce qui a vraiment pas mal marché. Donc ça, je la donne gratuitement et j'espère pas l'avoir sur tous les sites, mais on donnait un badge à chacune des personnes qui devenaient clientes d'EduSign. On leur disait bravo, vous êtes client d'EduSign, maintenant que vous avez un badge, vous pouvez le mettre sur votre site. Et sur le badge, il y a un lien vers EduSign. Donc ça, on a vu qu'il y a eu des dizaines de sites qui ont mis des backlinks. Mais en fait, si on regarde notre performance SEO, parce que je peux le dire, on a un peu plus de 120 000 visites aujourd'hui par mois sur EduSign. Le nombre de visites est disproportionnel à notre domain rating aujourd'hui, si on compare par rapport à d'autres. Donc c'est pas que les backlinks, clairement pas. La qualité du contenu est pertinente. Et après, au fur et à mesure du temps, on a pu faire d'autres pages. Mais au début, je m'étais assis à Station F pendant une semaine. Pendant une semaine, j'ai fait le bourrin et j'écrivais des articles. Je faisais que ça.
C'est toi. C'est ça que j'allais te poser comme question.
C'était moi.
Qui les a écrits.
Au début, tu fais tout. Au début, je fais tout toi-même. Au début, c'était à Station F, après, c'était le soir de Noël, et chaque opportunité, t'écris un article. En fait, si tu fais ça vite, parce que tu utilises toujours la même structure, t'as toujours les mêmes trucs, même si tu sais qu'il y en a un sur deux qui va pas ranker, la masse gagne quand même à la fin en SEO si tu sais à peu près ce que tu fais. Par exemple, nous, quand on sort 100 articles, on sait pas lequel va ranker, véritablement. On applique la même méthode. Par contre, on est quasiment sûr qu'il y en a certains qui vont ranker. Et on a une croissance de SEO qui est continue, d'année en année, sur la même méthode, et après, c'est juste faire plus. Régulièrement, et on touche d'autres mots-clés, mais au début, ça a été se mettre dans la cave, on va dire, virtuellement, et faire que ça, bourriner, et faire plusieurs pages par jour. Et donc, quand je dis plusieurs pages, c'est peut-être faire 5, 6, 7, 8 pages par jour, et écrire littéralement 30 000 mots en une journée. Donc, tu tapes, Là, tu t'arrêtes pas, tu bourrins. En fait, tu réfléchis peut-être un peu moins, mais c'est pas très grave, puisque l'article, tu peux toujours l'optimiser après. Moi, un truc que je vois souvent en SEO, c'est oui, mais j'ai peur que l'article il soit pas optimisé par rapport à ma marque. Oui, mais de toute façon, si personne ne voit ton article, on s'en fiche qu'il soit optimisé. Donc une fois qu'il est vu, ou par exemple, je sais pas, moi je pensais mettre des call to action pour qu'ils s'inscrivent derrière, etc. Au début, moi il y avait pas tout ça, c'était juste t'avais un petit call to action tout en bas de la page, mais sinon c'est l'article bourrin, le truc qui ranke. Une fois qu'il a ranké, là je commence à l'optimiser, et là je commence à peut-être mettre un peu de visuel, remettre un peu le truc en forme, mettre un call to action. Mais tu fais ça du coup sur une page, peut-être sur 10, ou peut-être sur 5, tu vois, à la limite, une fois que t'as optimisé le truc, mais tu fais pas ça sur toutes les pages. Donc tu perds pas de temps, Tu te lances, tu vas vite, tu fais du high intent, et derrière, tout de suite, il y a des leads qui sont tombés. Et d'ailleurs, moi, j'ai vendu EduSign avant même d'avoir le produit, finalement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient, je les avais au téléphone, on n'avait pas de sales serve à l'époque. Donc c'était oui, ok, vous êtes intéressé, telle feature, ok, cool. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Ok, vous mettez la carte à tel endroit, et puis après je vous onboard dans le truc, et puis let's go. Et on n'a jamais eu de freemium sur EduSign, à vrai dire, et d'ailleurs on n'en a toujours pas, alors ça va peut-être arriver, mais on a tout de suite fait payer les gens, même si c'était une somme dérisoire. Alors, tu vois, c'est un petit component aussi. Mais
voilà pour le SEO. C'est pas sorti, en tout cas. Sur la partie SEO, mais je pense que c'est symptomatique de ton état d'esprit depuis le début. C'est-à-dire que on pose déjà un pied dans la porte et ensuite on optimise. Parce que comme tu l'as dit, t'aurais pu mettre des call to action partout, etc., optimiser pour la brand. Mais c'était pas le but. Le but, comme tu l'as dit, c'était de ranker. Et je suis curieux en termes de lead là. Tu dis que ça a ranké assez rapidement. Tu peux nous donner un peu en combien de temps t'as vu des résultats et dans quelle proportion?
Alors c'est difficile à dire parce que je me souviens pas exactement, mais ce dont je me rappelle, parce qu'en fait je me rappelle pas de la progression et je me rappelle pas exactement du temps. Donc ce dont je me rappelle, c'est que dès mars, donc tu vois, j'ai les articles, j'en ai écrit la majorité fin décembre. Donc dès mars, parce qu'il faut un petit peu de temps quand même pour que ça ranke, je commençais à avoir des leads et fin mars j'en avais une dizaine par jour. Grosso modo, ça te donne un peu l'idée. Et d'ailleurs, de manière assez amusante, aujourd'hui la plupart des leads qui viennent en SEO sur EduSign viennent toujours de ces pages. C'est-à-dire plus de 50% des leads, alors qu'on a des centaines de pages en plus, mais parce que c'est les mots-clés high intent. Parce que c'est ceux qui sont intéressants. Donc, c'est vraiment du 80-20, mais même, enfin, c'est du 99-1, là, c'est, voilà.
Ouais, parce que t'avais fait un post sur LinkedIn, je me rappelle, je me le suis mis de côté, où tu disais qu'en fait, les 50 premières pages de contenu SEO que t'avais fait au début du projet, c'était plus de 50% des leads qui te convertissent aujourd'hui.
Mais oui, c'est ça. Mais oui. Mais oui, donc il y a pas besoin forcément de faire 500 pages. Après, il faut qu'il y ait un peu de recherche, faut qu'on puisse se positionner. Il y a des niches où c'est très difficile. Tu veux créer une banque. Bonne chance hein, pour tranquer sur des mots-clés ultra pertinents dans la banque. Je pense que ça a été matraqué par pas mal de startups. Donc ça dépend. Mais sur des trucs un peu niches comme ça, il y a des opportunités. Il y en a toujours. Hein, ceux qui pensent que le SEO c'est compliqué parce que ça a été surexploité, etc. Oui, sur ce qui est très connu, mais sur des petites niches pour commencer. Encore plein d'opportunités. Et après, évidemment, faut que le produit suive, hein. Parce que naturellement, s'il y a des gens qui reviennent sur votre site, que la page elle est pertinente, que la marque est sympa, que vous accompagnez véritablement les gens et qu'ils en parlent, bah, ça crée aussi un truc, hein. Je pense pas qu'il y ait que le SEO. Dans le SEO, il y a aussi ce qui se passe autour. Si ton produit est nul à un moment, ça va poser problème quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas que ça non plus.
Et qu'est-ce que j'allais dire là-dessus sur le marketing mix là par rapport à, donc il y a le SEO qui est le levier que tu as activé en priorité. Ensuite, ça a été quoi un peu dans l'ordre des choses? Qu'est-ce que tu as mis dans la balance par la suite? Est-ce que c'est à ce moment-là tu as aussi lancé le podcast, ou alors parce que au final toi tu as le profil marketing, donc vous êtes assez marketing led, et puis ensuite il y a eu la brique sales led, en tout cas outbound, parce que tu m'en avais parlé. Donc, je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu as imbriqué tout ça au fur et à mesure.
Oui, alors, donc une fois que tu as du SEO, suite assez logique, c'est de faire un peu de SIA. Ça, c'est pas très compliqué à mettre en place. Hein. Là, vraiment, pour le coup, on parle en quelques heures, si ce n'est quelques minutes, pour lancer un peu de SIA. Après, il faut monitorer un petit peu, mais ça, c'est le truc facile. Honnêtement, faut que le produit suive. C'est-à-dire que, parce que là, on commence à mettre de l'argent véritablement, donc faut qu'il y ait un ratio quoi derrière qui est intéressant, faut qu'il y ait un ROI. Mais dès lors qu'il y a un ROI, bah, on mettait du SIA. Donc ça, il y avait ça qui est assez rapidement intervenu. Ensuite, on avait tellement de demandes à un moment chez Ducène qu'on a dû mettre des webinaires pour traiter les leads entrants. Donc c'était même pas des webinaires pour générer des leads, c'était des webinaires pour traiter les leads. Ça, c'était le premier truc d'ailleurs qu'on a gardé en fait au fur et à mesure du temps. Donc ça a été le truc assez naturel. Et puis ensuite, il y a eu effectivement des webinaires et podcasts qui sont arrivés ensuite. La logique du podcast à la base, c'était pas forcément d'ailleurs de faire de l'acquisition. Je me suis retrouvé à faire de l'acquisition avec, mais c'était pas tellement le but. Le but, c'est que je comprenne l'écosystème dans lequel j'étais et que je me positionne un petit peu comme expert aussi, parce que la vérité, c'est qu'au début, moi, je connaissais rien au monde de l'éducation. On a l'impression de tout se connaître. Et en fait, les headtech, les administrateurs des grandes écoles, les organismes de formation, on connaît pas véritablement comment ils fonctionnent. On sait pas leur challenge, on sait pas comment ils voient le marché eux-mêmes, quelles sont leurs priorités, etc. Donc l'objectif, c'était déjà de mieux les connaître et de faire potentiellement, de créer des opportunités de partenariat et de choses comme ça là-dessus. Donc ça a été une brique qui est arrivée assez rapidement aussi. Donc je me rappelle plus exactement, mais c'était en 2020. Faudrait regarder le tout premier épisode d'ailleurs avec Cyril Pierre de Gaillard de Rocket School, qui est un fidèle client très sympathique qui a beaucoup grossi dans la période. D'ailleurs aussi vite, si ce n'est plus vite, qu'il y a du sign en termes d'organisme de formation. Donc c'est chouette aussi. Et après on a rajouté d'autres petits tests. En fait on a eu énormément. La philosophie des du sign, ça a toujours été, comme tu l'as dit, de tester vite. Et donc on a toujours essayé de garder ça en marketing aussi. Donc on a testé énormément de choses. On a testé déjà d'AB testé les pages. Donc tu vois par exemple la homepage, je pense qu'elle a subi peut-être 80 AB tests dans son histoire. Et tu vois que sur 80 tests, hein, peut-être 3 en fait qui sont vraiment significatifs et qui ont amélioré la page de 20 ou 30% en termes de conversion. Mais par contre, quand tu arrives à trouver ce truc qui, en changeant une phrase, augmente de 30% la conversion, c'est le truc que tu as fait le plus rentable du mois en fait globalement. Donc ça vaut la peine. Donc ça, c'est des petits trucs pareil qui prennent pas beaucoup de temps. Et après on a ajouté d'autres petites expérimentations. Donc là ça a été alors il y a des briques marketing d'ailleurs dont on n'a pas parlé, mais qui sont aussi, une fois que t'as les leads, hein, le nurturing, ça c'est un truc quand même qu'on a vite mis en place avec on avait customer.io à l'époque, maintenant on le fait avec HubSpot, mais toujours avec de l'event, du data, enfin en gros data based, donc on va regarder ce qu'ils font dans le logiciel, par exemple, et envoyer en fonction des événements, regarder sur le site ce qu'ils font et envoyer en fonction des événements, essayer d'envoyer du contenu pertinent au bon moment à la bonne personne. Donc, on a tout de suite eu un truc un peu complexe, pas hyper complexe, mais avec plusieurs dizaines d'emails qui étaient dans des scénarios un peu divers et variés, avec diverses règles en fonction du temps, etc., de ce qu'on pensait. On ne sait pas vraiment si ça marchait à chaque endroit, mais en tout cas, à la fin, au global, ça marchait. Et je pense que ça, c'est un truc en marketing, d'ailleurs, qui est assez important. C'est que parfois, on ne sait pas pourquoi ça marche, on a une intuition, mais faut pas être, faut pas être arrogant au point de dire je sais que c'est ça qui a marché. Peut-être qu'on comprend pas en fait pourquoi ça marche. Par contre, l'important c'est que ça marche. Donc là, il faut qu'il y ait une courbe de progression. Pour moi, c'est ça que je vais mesurer. Et donc on va essayer d'avoir une courbe de progression sur chaque petit sujet, de les optimiser et de faire plein de petits tests comme ça. Et après, on est allé sur des tests sur Facebook, sur LinkedIn, sur qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait du Google Display aussi au-delà du Google Ads pur, enfin du SEA. On a sponsorisé des newsletters. On a un peu tout testé. Il y a des choses. On a fait des events. Les events, c'est arrivé un poil plus tard parce qu'il y avait le Covid forcément. Donc il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Ce qui est assez difficile aujourd'hui pour moi, parce qu'on peut parler aussi, tu vois, du challenge aujourd'hui même encore, c'est que finalement parfois t'as des éléments où tu dis je vois pas le ROI. Mais en même temps, tu sais qu'il y a un truc par rapport à ta marque. Par exemple, les événements, c'est typiquement le genre de choses où je suis un peu en difficulté parce que d'un côté, je vois que l'investissement en SEO est extrêmement rentable, parce que c'est direct, etc. C'est visible, c'est traqué, c'est track directement. Et donc, on se retrouve avec des événements où c'est pas facile de traquer. En tout cas, c'est parfois indirect. Et donc, on a dû faire quelque chose que avant on faisait pas. Donc, on a mis 2 ans et demi, je crois, à le mettre en place. C'est demander explicitement à la personne d'où elle vient. Mais on demandait déjà finalement d'où elle venait. C'est-à-dire que on demandait dans le produit d'où est-ce que tu viens en cliquant sur un truc. La petite nuance qu'on a changée, c'est qu'on demande maintenant qualitativement. Et on dit pas choisis une option, c'est dis-nous d'où tu viens en verbatim. Et donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des réponses qui sont assez intéressantes et qui font que le SEO baisse un tout petit peu quand même dans l'attribution. De toute façon, c'est un funnel hein, l'attribution, faut arrêter de dire, parce que je vois souvent qu'il y a inbound, outbound. Oui, mais non, en fait, c'est tel marketing. Et puis, le sales, il a eu la chance de toucher la personne au bon moment. Mais c'est les deux. Mais donc, on voit quand même que le dark social, tout ce qui est invisible, est pas mal et assez important. On m'en a parlé, c'est un formateur qui l'a vu. J'ai vu un truc sur LinkedIn, j'ai écouté le podcast. Tu vois, le podcast, t'as pas de tracking. Si la personne te le dit pas vraiment explicitement. Et donc, c'est que des choses qu'on a essayé de traquer comme ça. Donc, on a eu... une phase où on a testé beaucoup de choses, et ensuite on a capitalisé sur ce qui marchait x10. Donc en gros, une fois qu'on avait testé pas mal de trucs, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qui marche ?» Les webinaires, ça marche pas mal, ça rapporte des leads, surtout avec les partenaires, ça permet d'avoir de la visibilité, donc c'est cool, on en a fait plus. D'ailleurs, on en fait toujours pas assez, de mon point de vue. Le podcast, ça marche pas mal, donc on va le continuer, on va continuer à faire ça. Et le SEO, évidemment, on l'accélère à fond. Donc ça, c'est vraiment les trois briques qu'on a aujourd'hui. Les événements, on en fait de temps en temps. Mais tu vois, on n'a pas des budgets de 25 000 euros pour faire un événement. C'est pas le truc aujourd'hui qu'on fait. D'ailleurs, on n'a jamais mis ce budget. Donc, tu vois, c'est un test qu'on garde à l'esprit en se disant, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on mettait 50 000 euros, on fait un giga stand. Mais bon, pas forcément convaincu sur le papier quand on fait des maths. Et après, il y a d'autres petits trucs d'ailleurs dans les tests que j'ai pas évoqués. On a pas mal de tests en SEO sur du programmatique SEO.
Ouais.
Qui sont pas que écrire des pages de blog, des landing pages, mais aussi prendre par exemple tous les modèles de documents qu'ils ont et essayer de créer des pages optimisées au SEO en basse. Donc tu vas te retrouver avec 50 pages d'un coup. Donc tu vas peut-être passer 10 fois plus de temps à préparer la première page, mais une fois que t'en as une, tu peux faire les 50 très rapidement. Et donc l'objectif c'était d'avoir ça. Et donc ça a plutôt bien marché sur les modèles de documents. On l'a fait sur d'autres choses. On l'a fait sur même des emails par exemple. Donc sur les emails ça marche. Sur les questionnaires ça a pas très bien marché par exemple. Donc on a essayé de faire du programmatique SEO. On a essayé aussi toute une panoplie de side projects qu'on aurait pu avoir. On a essayé de lancer un petit outil de génération de questionnaires via l'IA. Finalement, pas marché. On a essayé de lancer une plateforme qui met en relation les formateurs avec les écoles en se disant potentiellement, il y a un gap dans le marché. Normalement, c'est un produit qui paye. Trop d'efforts de notre côté, pas marché. On a lancé un site qui s'appelle noteformation.com où là, c'est du programmatique SEO et on rank tous les organismes de formation en France. Commence à marcher un petit peu, ça rank tout seul, mais tu vois, faut mettre de l'effort. Donc après, il y a des trucs qui sont plus ou moins intéressants, on essaie de les ranker, de se dire, ok, dans quelle heure on fait les choses. Et moi, je suis un peu estomaqué parfois d'entendre des grosses ou des personnes en marketing qui disent, j'ai pas d'idées. Des idées, il y en a plein, il y en a des centaines. J'ai littéralement 300 idées, si vous voulez, de trucs qu'on fait ou qu'on va faire, et on doit juste les prioriser. Donc une fois qu'on a tout ça, on a commencé à faire un petit peu d'outbound. Mais la vérité, c'est qu'au début, on avait tellement d'inbound chez EduSign qu'on n'a jamais eu à faire d'outbound. En fait, mais les sales, au début, c'était des caissiers, globalement. Ils vendaient le truc, c'est tout. Donc aujourd'hui, on commence seulement.
Juste avant que tu te lances sur l'outbound, moi, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur la partie podcast et webinar, qui sont en fait des gros morceaux de votre côté. Sur le podcast, donc tu disais que tu avais lancé l'émission pour apprendre davantage sur ton marché, sur les personnes et leurs problématiques. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le process de la création? Comment est-ce que tu as validé le concept? Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait que ça avait que ça pouvait avoir un impact pour vous? Comment est-ce que tu as bossé ton positionnement? Enfin voilà, je veux bien que tu nous retraces un petit peu le process de création et puis après on rentrera un petit peu dans le détail dessus.
Ouais. Alors le positionnement, il a pas été ultra réfléchi, c'est-à-dire en gros j'ai regardé un petit peu les podcasts qu'il y avait, mais il y en avait pas tant que ça en fait sur le sujet administration de la formation de manière générale. Le positionnement, ça a été de dire il y a pas de podcast qui regroupe les avis de tous les experts, c'est-à-dire que les EdTech, ils ont un podcast EdTech. Les formateurs vont avoir un podcast formateur. Moi, je voulais un média qui regroupe tout. Donc, t'as les experts avec les avantages et les inconvénients que ça a. Mais donc, t'as les formateurs, t'as des experts EdTech, t'as des directeurs d'établissements du supérieur, de l'éducation nationale même d'ailleurs, qu'on n'adresse pas, et divers experts. Donc ça, ça a été le positionnement global. Après, on a juste trouvé un titre qui se comprend. Formation innovation, on n'a pas cherché très très loin, honnêtement. Et avec un petit focus donc sur quand même. Le côté innovation, parce qu'on veut montrer que l'éducation doit avancer, quoi. Je pense qu'il y a un truc qui est un peu problématique de manière générale dans l'éducation, c'est que t'as des formateurs qui disent oui, j'ai envie d'avancer, etc., avec le digital, mais au final, ils le font pas vraiment, ou alors ils ont pas les moyens. Et au-dessus, c'est pas toujours convaincu. Donc, je pense qu'il faut évangéliser aussi un petit peu le fait que oui, l'innovation, ça sert. Et moi, je crois pas du tout à l'établissement du supérieur, l'université qui fait tout elle-même maison et qui repose sur les systèmes qui sont vieux de 30 ans. Ça leur coûte plus cher, en fait, que d'acheter le SaaS. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il faut, voilà, c'était le petit truc derrière. Et donc, sur comment créer le podcast, il y a eu une idée fondamentale. Moi, j'avais pas le temps quand j'ai créé le podcast. Mais quand je dis j'avais pas de temps, tu vois, cette phrase, je l'aime pas trop, hein, de dire j'avais pas le temps, mais là, c'est j'avais pas le temps. Parce qu'il y avait des leads qui tombaient tout le temps. Et donc, l'idée, c'était de dire, bon, bah, ça, c'est OK pour moi de faire un podcast, ça prend moins de 2 heures. Moins de 2 heures de bout en bout. C'est-à-dire de, je contacte la personne sur LinkedIn, elle me répond, j'organise le truc, on va sur le podcast, je l'édite, je le publie, et c'est bon. Et donc, ça a été raccourcir au maximum tout ça. Mettre des templates, etc. Rien de très compliqué. Hein. Honnêtement, je sais pas combien de temps tu prends, mais en tout cas, moi, j'ai vu des personnes qui, sur des podcasts, prenaient pas mal de temps parce qu'ils l'éditaient derrière, ils faisaient de la retouche. Et il y a quand même une grande différence entre passer 2 heures et 2 jours. Donc, je préfère passer 2 heures. Et je suis pas sûr que le ratio soit bon si on passe 2 jours, sauf si vraiment on a l'ambition de faire un truc B2C qui explose et que c'est le truc qu'on fait, devenir le prochain Joe Rogan. Oui, là, il faut peut-être le faire. Mais sur quelque chose qui est vraiment sur le B2B et qui apporte de la valeur sur un truc spécifique. Là, c'était plutôt la rapidité qui importait. Et donc après, on a utilisé l'audience qui grossissait d'EduSign pour partager le podcast. Donc là, pour le coup, il n'a pas été brandé EduSign, par contre. Il est toujours pas, d'ailleurs. C'est assez important parce que ça...
Ouais, j'allais te dire, c'était quoi un peu ton rationnel derrière?
Ouais, le rationnel derrière, c'est de dire, il y a personne qui va venir dans le podcast, enfin personne. Il y a moins de monde qui va venir dans le podcast si c'est brandé EduSign. Je vais avoir du mal à faire venir un directeur d'établissement du supérieur si c'est brandé EduSign parce qu'il va dire, moi je m'affilie à quelque chose. Alors que là, c'est juste une interview, c'est un média quoi. Et d'ailleurs, je me fais même contacter par des journalistes maintenant, ce qui m'ouvre aussi d'autres opportunités dans certains cas qui sont assez intéressantes. Donc ça, c'est le. Après, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Ça, ce débat. Mais en tout cas, je pars du principe que à partir du moment où la personne a écouté un podcast parce que je peux quand même glisser du sign de part et d'autre, eh bien, à un moment, si elle est intéressée par la problématique, elle va probablement retomber sur EduSign, ou en tout cas ça fait un touchpoint dans l'attribution. On dit qu'il faut 7 touchpoints en marketing globalement pour convertir un prospect, bah voilà, ça en fait un de plus et ça fait du contenu surtout qualitatif, expert, etc. Donc je voulais vraiment que ça marche parce que je pense que lancer un podcast c'est assez difficile à vrai dire, et on le voit, hein, il y a 95% des podcasts qui dépassent pas 3 épisodes, je crois que c'est une stat comme ça. Et t'en as assez peu en fait qui perdurent dans la durée parce que c'est dur, t'as pas une audience énorme, enfin je veux dire, tu compares l'effort qu'il faut mettre par rapport, je sais pas, à une vidéo YouTube et le potentiel de reach. Je dis pas le reach réel, mais le potentiel de reach. Sur YouTube, t'as 10 fois plus de personnes qui vont sur YouTube que sur podcast. Et quand je dis 10, c'est peut-être
pas viral,
même plus.
En fait. C'est pas un format viral. Ouais. Les plateformes ne vont pas penser pour que ce soit viral.
Exactement. Donc voilà, ça a été ça la réflexion, ça a été de faire quelque chose de qualitatif qu'on va pouvoir partager, se positionner comme expert, comprendre l'environnement. Et après, donc sur la question de comment on a vu un petit peu le ROI, bah, je t'ai dit, hein, la première personne à passer dans le podcast, il n'était pas client à la base, hein, il est devenu client. Donc il est devenu client, il a signé instantanément le premier jour. Le podcast était l'action la plus rentable qu'on ait fait des DocuSign après les articles SEO peut-être, quoi.
Comment ça s'est passé cette ça c'est un truc que j'essaye de faire passer comme message parce que en fait pour moi le podcast c'est vraiment du smart outbound en fait mais du coup est-ce que c'était intentionnel pour toi de te dire je vais inviter des cibles potentielles à mon podcast, est-ce que tu l'as vu dans cette logique là, c'est comme ça que tu l'as conçu pour s'insérer dans ta stratégie marketing?
Je l'avais pas conçu pour ça. Mais une fois que j'ai compris que c'était quelque chose qui pouvait marcher, oui, j'ai un peu appuyé dessus. Mais la majorité des personnes que j'interview ne sont pas des potentiels clients. Et parce que je veux de la diversité et parce que justement, je veux garder cette intégrité si on veut. Et je ne pitche jamais EduSign à la personne qui est en face de moi. Et 100% du temps, quand EduSign est pris par quelqu'un qui est passé dans le podcast, c'est lui qui est revenu vers moi ou qui me pose la question de, bah, tiens, parle-moi un peu plus d'EduSign. Est-ce que, voilà, moi ça peut peut-être m'intéresser. Donc je ne vends pas EduSign, jamais. Je relance pas sur le sujet et j'insiste pas. Et c'est eux qui décident. Donc ça rentre dans la logique. Mais le plus important pour moi, ça reste quand même d'abord d'avoir du contenu de qualité, des personnes de qualité qui vont partager EduSign, qui vont mettre en valeur finalement le podcast et l'expertise que du coup je peux avoir, qui vont me permettre d'avoir encore plus d'opportunités, etc., etc. Et c'est aussi important, je pense, d'avoir dans son marché, un peu de crédibilité, on va dire, et que les personnes n'hésitent pas à travailler avec vous. Quand vous êtes un complet nobody, que vous avez, et je dis pas que j'ai des millions de vues, c'est pas ça, mais mine de rien, dans mon industrie, dans mon petit truc, moi, ça me permet de toucher n'importe qui quasiment maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un dans le pire des cas, et il va voir le podcast, et il va voir que j'ai fait des interviews, il va voir des choses. Donc il y a cette utilité d'abord, et après, parce que Rocket School, on aurait peut-être pu l'avoir autrement. Probablement que s'ils étaient intéressés, on les aurait peut-être contactés, ou ils seraient peut-être venus sur le site, ou... Je veux dire, la plupart des gens aujourd'hui connaissent EduSign. La raison pour laquelle ils l'ont pas là maintenant, c'est parce que soit ils n'ont pas le budget, soit c'est pas le bon moment, soit ils sont équipés par autre chose. Et c'était pas forcément dans l'optique d'acquérir. Par contre, quand on voit le résultat, quand on regarde l'attribution, aujourd'hui c'est 10 à 15% du CA qui a été touché par le podcast. Alors il n'y a pas que ça dans tous les cas, mais il y a quand même de l'acquisition, que ce soit pour les invités, mais aussi pour les auditeurs. Il y a des auditeurs, par exemple, il y a des personnes qui, d'ailleurs, des profils assez surprenants. Parfois, il y a eu un DSI une fois qui disait, moi j'adore le podcast. C'est pas vraiment la cible, le DSI, puisque c'est un podcast qui est quand même un peu plus business, école, administration, et non, il est super intéressé. Et lui, il a le pouvoir de décision. Et lui, du coup, il va pouvoir acheter EduSign. Il dit, je vais prendre EduSign parce que c'est cool, mais aussi parce que j'ai envie de soutenir le podcast, etc. Et machin. Et donc, c'est un argument de plus.
Et justement, là, c'est assez surprenant qu'il soit tombé sur votre podcast. Comment est-ce que vous l'avez distribué? C'est quoi un peu l'effort que vous mettez derrière en dehors des 2 heures, tu vois, comme tu le disais, des 2 heures pour trouver le guest, enregistrer, etc.
Eh ben, très peu. C'est un post LinkedIn éventuellement, et pendant longtemps, on n'a pas fait de post LinkedIn d'ailleurs, parfois. On a une newsletter qui est pas dédiée au podcast, qu'on envoie avec EduSign, qu'on envoie à tous les contacts marketing qui sont dans la base. Et dans cet email, une fois par mois, il va y avoir les podcasts, donc on relaie pas d'ailleurs, je crois, tous les podcasts systématiquement. Et après, il va y avoir dans le logiciel, dans la séquence de nurturing et dans le logiciel, donc il y a différents touchpoints, en gros, à différents endroits dans le chemin de parcours de l'utilisateur, que ce soit juste un lead ou que ce soit un utilisateur, il va retomber à un moment ou à un autre sur le podcast. Et à la fin de la journée, il n'y a pas 50 podcasts, comme je le disais, sur le sujet. Donc si les personnes s'intéressent à ce sujet, qu'ils aiment le podcast, il y a des chances qu'ils tombent quand même sur le podcast assez rapidement, d'une manière ou d'une autre, s'ils cherchent un petit peu. Donc il y a des gens qui découvrent aussi simplement juste par la recherche, et je le vois, hein, sur Spotify, tu as un certain nombre de recherches et d'abonnés au podcast derrière. Je suis à ça a priori, quoi.
Et donc tu t'en sers aussi sur la partie nurturing, sur la partie outbound, tu t'en sers aussi?
Assez peu. Mais par contre, comme tu le disais, moi il y a un truc que je dis à mes sales, c'est qu'en fait, il faudrait peut-être qu'ils aient une approche un peu plus comme le podcast, parce que je pense que le podcast finalement est un excellent outil d'outbound, comme on a pu le voir, parce que moi il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que mon taux de réponse quand j'envoie un message sur LinkedIn pour un podcast, c'est quelque chose comme 80%, quoi. Quasiment tout le monde me répond.
Je suis d'accord, c'est pareil pour moi.
Et alors que tu vas faire une campagne d'outbound, si t'as 80%, tu vas être fou, tu vas être en train de danser, tu vas te dire c'est incroyable. Mmh. Alors qu'en fait, faire un podcast, ça coûte pas beaucoup plus de temps que faire une démo ou, enfin, d'ailleurs, et je pense que la différence, c'est que tu vas être plus personnalisé, tu vas essayer d'apporter de la valeur à la personne, mais véritablement, moi j'entends beaucoup de gens qui disent « moi je vais apporter de la valeur », ouais, mais ils parlent que d'eux quand même. Mmh. Donc il faut d'abord parler de l'autre. Et donc c'est une philosophie, et il y a aussi peut-être un petit côté un peu caché, tu vois, au truc, mine de rien. C'est « je viens vraiment pas pour parler du produit », parce que même quand on parle de l'autre, c'est souvent un peu évident quand même. D'ailleurs, quand tu vois sur LinkedIn que tu as 16 exécutives, bah moi, l'invitation, je l'accepte pas toujours. Hein. Donc, c'est des petits trucs, mais ouais, comme fondateur, bah, c'est un peu plus facile. Mais on l'utilise pas tant que ça en outbound. Et d'ailleurs, nos sales utilisent peu la outbound avec du contenu. C'est quelque chose qu'on essaie de changer. Mais en fait, on est assez mauvais en outbound. On va pas se mentir. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on essaie de faire de la outbound un petit peu, qu'on a recruté des gens pour. Mon associé va peut-être entendre ça, mais on est mauvais à ça. On est mauvais à ça et c'est un échec pour l'instant. Et on commence tout juste à avoir des éléments de confiance là-dessus qui nous disent, OK, peut-être qu'on arrive à faire quand même des choses en couplant, des activités marketing, en faisant ça, en étant plus ciblé. Mais on n'est pas encore super bon. Donc, j'ai pas craqué le game là-dessus. Et d'ailleurs, je vais régulièrement voir des experts comme super gars de partout qui sont très, très bons en outbound. Et là où on est moins bon. Et on échange les bonnes pratiques sur, pour nous, l'inbound pour eux et puis l'outbound pour, dans l'autre sens.
D'ailleurs, je fais une petite promo pour Start to Scale, l'autre podcast que j'anime, qui est rattaché aux médias Tribes, qui a été cofondé justement par Thibaut de partout. Donc voilà, on a fait des épisodes assez sympas sur la outbound. Donc n'hésitez pas à les consulter.
Ils sont forts, hein. Ils sont trop forts, je suis partout.
on va revenir sur la partie. Justement, sales, juste après. C'est quoi un petit peu le conseil là que tu donnerais aux boîtes là qui veulent lancer un podcast en B2B?
Je c'est quoi pense un peu, que le plus important
les bonnes questions à se poser pour eux, tu vois, aussi.
Ouais. Je pense que le plus important, s'il y avait vraiment un truc, c'est de continuer et d'être consistant. C'est-à-dire de pas avoir quelqu'un qui lance l'initiative, qui est le stagiaire, qui va le faire pendant 3 semaines et qui va arrêter. Sinon, faites juste le pas, en fait. Il faut soutenir le truc et on le voit, c'est incrémental. Je dirais le vrai avantage du podcast, c'est que dans la durée, les écoutes vont quand même augmenter. C'est comme un peu sur YouTube, si tu deviens famous, tes premières vidéos toutes pourries, elles avaient 2 vues à l'époque, elles commencent à augmenter. Et donc c'est quelque chose qui, mine de rien, dans le temps, prend de la valeur. Et si tu fais un effort d'avoir des épisodes qui sont relativement evergreen, ça a d'autant plus de valeur. Donc c'est, je pense, le point le plus important. Après, le reste, honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de règles et je suis pas sûr d'avoir craqué le game. J'ai pas des millions d'écoutes, mais je suis pas sur un sujet où je souhaite avoir des millions d'écoutes non plus. Donc, faudra peut-être poser la question à quelqu'un qui a, tu vois, Mathieu Stéphanie, qui lui a craqué le game. Et là, il aura peut-être des trucs plus précis, mais pour l'instant, je pense qu'en B2B, sur une niche bien précise, faut juste se lancer et le faire de manière consistante et le partager et c'est déjà pas mal.
Je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, c'est deux logiques très différentes que d'être, je dirais, podcasteur full-time sur une audience de masse que de le faire pour une boîte B2B. Si tu as 400 personnes qui t'écoutent chaque mois, mais que ces 400 personnes, ce sont des décideurs, des key opinion leaders dans ton industrie, pourquoi s'embêter à faire une distribution hyper élaborée alors qu'en fait, avec un post LinkedIn et quelques DM... ce soit sur LinkedIn ou post-épisode des échanges par email, si ça fait le job, il n'y a pas besoin en fait de faire plus d'écoute. Alors après, c'est plus pour la social proof, mais en soi, je pense que c'est deux combats qui sont très différents. Donc ouais, moi, le conseil que je donnerais aussi, et t'as dit un mot qui m'a pas mal interpellé, et ça j'y crois beaucoup, c'est le côté evergreen. C'est-à-dire que si on veut que les épisodes y campendent sur la durée et que les premiers épisodes qui n'avaient pas forcément la même exposition que les derniers continuent de soutenir le nombre d'écoutes, c'est justement de les penser evergreen et pas le hack qui a marché pendant 6 mois en 2023 et qui a mis toute l'industrie en PLS, j'en sais rien, mais tu vois l'esprit en fait. Si tu penses evergreen, t'as plus de chances qu'en fait les intérêts composés soient forts à l'issue Et donc, je pense que c'est super important dans la ligne édito de bien définir ça.
Et tu vois, là-dessus, c'est assez... parce que je vais te rebondir sur un truc. En marketing, moi, un truc que je vois bien souvent, c'est justement la recherche des hacks, des grosses hacks. Tu vois, je pense que le terme « grosse hacker » et « grosse marketeur », c'est dangereux, en fait. Ça fait du mal aux boîtes. Et je pense que bien souvent, elle ferait mieux de faire 10 fois mieux, plus, ce qui marche déjà, ce qui est prouvé comme marchant bien, quoi. C'est-à-dire avoir une bonne landing page avec un bon copywriting, avoir du bon SEO, avoir ce genre de choses, quoi. Et juste bien faire ces choses-là, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin forcément de plus. Et il y a des gens qui ont juste une newsletter avec des emails et ça marche. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a une raison pour laquelle ça marche toujours. Donc, si ça marche depuis très longtemps, c'est souvent un bon signe, je dirais, à vrai dire.
J'en profite pour transitionner là sur les webinars, qui est un sujet qui marche très très bien chez vous. Sur le webinar, tu disais, vous en faites pas assez aujourd'hui. C'est quoi un peu la fréquence? C'est quoi aussi l'effort que vous y mettez en face, l'organisation, les résultats, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous...
Ouais. Alors on a deux types de webinaires. On a les webinaires qui sont pour les personnes intéressées envers EduSign, qui veulent en savoir plus sans aller jusqu'à faire une demande de contact. Et ça permet aussi d'avoir un funnel d'acquisition. Je dirais même d'activation, tu vois, présent dans certains cas, qui est sans sales. En tout cas, pas avec un sales directement, sans humain. Je pense que c'est une tendance qui va se développer. Moi, je crois beaucoup à demain un cycle de vente, sauf sur les très, très grands comptes, qui sera beaucoup moins complexe et qui sera directement guidé par la personne, par elle-même, quoi. Donc, on a ce webinaire qui se tient une fois par semaine, c'est tous les jeudis à 13h, si je me souviens bien. Ça marche pas mal. Il n'y a pas énormément de monde, mais ça permet d'activer et surtout de déclencher parfois quelques questions derrière et quelques rendez-vous qu'on n'aurait probablement pas eu avant. En tout cas, je me rappelle plus des stats, mais on a vu une augmentation là-dessus, donc ça vaut la peine de le faire. Et donc, le deuxième type de webinaire qui est plus intéressant pour nous, c'est les webinaires où là, on va... avoir une audience plus large et on va partager du contenu de qualité. Et souvent, très souvent, en tout cas, 95% des webinaires qu'on fait sont faits avec un partenaire et sont faits de telle sorte que les deux sociétés profitent de l'audience l'une de l'autre. Et on a une attention toute particulière à ne pas vendre quelque chose. Et ça nous agace un peu quand on voit qu'un partenaire a un peu trop vendu d'ailleurs. Et on essaie de pas trop parler d'EduSign. Et tu vois, c'est à la même logique que le podcast. On a une logique chez EduSign qui est donner beaucoup. C'est pas grave si parfois on aurait pu vendre un peu plus, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens nous voient comme la société experte des sujets à laquelle ils ont envie de revenir, non pas que pour le produit quand ils en ont besoin, mais aussi pour d'autres choses, et qu'on soit top of mind. Moi, mon taf, c'est surtout de faire en sorte que EduSign soit top of mind. Donc ça, c'est en tout cas moi, ce qui m'anime, parce que je pense que, comme je te le disais au début, le papier va disparaître, qu'ils vont forcément passer sur un logiciel. Donc tant qu'il y a encore du papier, ma mission, c'est top of mind. Le jour où il y aura plus de papier, peut-être qu'il faudra les déloger chez les concurrents, ce sera un autre sujet. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc là, l'objectif, c'est de faire des webinaires avec d'autres marques, et la plus grosse, la marque est le mieux. Par exemple, avec Canva, c'est super. Là, on va en faire avec Klaxoon, c'est génial. Ça, c'est chouette. Après, parfois, c'est avec des personnes qui sont un peu plus expertes d'un sujet, par exemple, et qui vont apporter une vue sur un sujet qui est tendance en ce moment, comme l'IA. Et là, on a fait un webinaire, par exemple, avec c'était le VP, alors l'ancien président d'EdTech France, mais je crois VP maintenant d'EdTech France, qui est venu parler de l'IA dans l'éducation, etc. Donc là, ça intéresse pas mal de monde. Mais pareil, on met pas EduSign en avant. Et donc ça, on le fait à peu près. J'aimerais toutes les semaines, idéalement. En pratique, je crois qu'on est plutôt à un par mois. Et donc le juste milieu se finira peut-être à un toutes les deux semaines. Mais c'est quelque chose qui marche pas mal et qui rapporte plusieurs centaines de personnes sur les épisodes et enfin sur les webinaires. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va regarder, parce que bon, on peut dire ok, mais est-ce que c'est nos clients qui reviennent? C'est que c'est à peu près 50-50. C'est-à-dire que oui, on intéresse beaucoup nos clients, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça contribue au fait qu'on ait peu de churn. Chez EduSign, on a peu de churn.
Ça fait du nurturing et ouais, ça travaille la fidélité.
Ça travaille la fidélité, parce que franchement, chez EduSign, on a eu un nombre de bugs. Moi, j'ai déjà lu des trucs qui disaient au bout de 3 bugs majeurs, quelqu'un en général va churn. Enfin, en tout cas, c'est un peu le truc maximum tolérable. On est pas à 3, hein, on est plutôt à beaucoup beaucoup plus, malheureusement. Donc ça se réduit évidemment, mais on en est, pour certains, ils essuient les plâtres. Et pourtant ils restent. Donc je pense qu'ils restent pour différentes raisons. Ils restent parce qu'il y a une bonne relation avec les CLC, CSM, etc. Mais aussi parce que il y a du contenu en plus, on les accompagne, on va plus loin. En fait, on fait l'extra mile. Par exemple, quand quelqu'un vient au support sur EduSign et nous dit, moi j'ai un problème avec Zapier. Il y a pas mal de supports qui diraient, va voir Zapier. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est pas de problème, envoie-nous le workflow. On va regarder. S'il faut qu'on passe une heure, on passe une heure. Même si la personne rapporte 30 euros par mois. Parce qu'on sait que la personne derrière, elle va rester chez nous. Elle va être ambassadeur. elle va recommander EduSign et c'est top. Et pas toutes ces personnes vont faire ça. Mais s'il y en a quelques-unes qui font ça, c'est top. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on essaie d'avoir. Donc dans les webinaires, c'est la même logique. Donner de la valeur. Et après, on va éventuellement envoyer un petit email avec les ressources, le lien du webinaire, qui est brandé EduSign. Et là, ça suffit. Moi, je pense que les gens sont pas stupides, hein. Ils peuvent aller taper par eux-mêmes edusign.com ou edusign.fr et retrouver le site web et en savoir plus s'ils le souhaitent. Il n'y a pas besoin d'être trop obvious à ces stades, en fait. Et je pense, par contre, une fois que c'est dans le cycle de vente, là, il faut être très précis sur qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, mais pas à ce stade de awareness où là, on essaie d'être plus tranquille.
Toujours sur les webinaires là, au niveau des partenaires, comment est-ce que tu pitches le webinaire à un partenaire, surtout quand c'est une plus grosse boîte? Comment est-ce que tu l'embarques dans ta vision? Comment est-ce que tu l'embarques dans ta philosophie, hein, qui est de dire on apporte de la valeur et on se met en retrait? Ouais, je suis très curieux que tu nous donnes un peu d'insight là-dessus.
Les deux arguments principaux, c'est pas nous qu'on va mettre en valeur, c'est vous. Donc déjà, ça facilite grandement la chose. C'est on vous invite à parler de votre sujet. Pas de votre produit, la nuance est importante. On peut commencer la conversation en disant parler de vous de manière générale, et puis ils peuvent comprendre le produit et finir, une fois qu'ils sont engagés, à pas faire sur le produit. Et le deuxième, c'est on a une audience qui, véritablement, est pas si grande que ça. Parce qu'en fait, dans les webinaires, t'as pas 10 millions de personnes. Mais quand t'envoies un email et que tu dis bah on a 2 millions d'utilisateurs, en général, t'as une réponse à l'email, au moins. Donc, ça permet d'avoir la première conversation. Et après, c'est en général, ça finit toujours par se faire, quasiment toujours. Parce qu'un webinaire, ça engage pas grand-chose de leur côté. Par contre, le potentiel upside est assez important. Donc, on se retrouve souvent à le faire. Après, on n'a pas réussi à dégoter, tu vois, des webinaires avec le CEO de Microsoft, enfin des trucs énormes. Tu vois, là, oui, là, je sais pas faire. Par contre, des boîtes qui sont connexes à nous, et même si elles sont deux ou trois fois plus grosses, ça se fait bien. Et mine de rien, aujourd'hui, dans les headtech, en fait, en France, il n'y en a pas beaucoup des plus grosses qu'EduSign. Il n'y a pas beaucoup de boîtes headtech qui font énormément d'argent. Donc, on se retrouve dans une position finalement presque de force aujourd'hui.
Et en termes d'organisation, c'est vous qui vous occupez de tout? C'est vous qui gérez la promo? Enfin, voilà. Comment est-ce que ça se découpe en termes de responsabilité?
Ouais. La promo,
peut-être les challenges qui sont associés là-dessus vis-à-vis du partenaire.
Ouais, il y a pas beaucoup de challenges. En tout cas, ça a été rodé. Les challenges au tout début, c'était récupérer les bonnes informations, faire en sorte que tout le monde soit aligné, mais ça se règle assez facilement. Là, la promo se fait de manière conjointe, donc chacun de son côté va promouvoir la chose. On va juste se convenir sur des dates à peu près. Pas forcément de l'envoi précis de l'email, mais disons le webinaire à telle date, on s'attend à communiquer à telle date, donc ce serait bien que vous communiquiez à peu près à cette date. Donc ça se fait plutôt bien. Les assets vont se partager assez naturellement, donc on a aujourd'hui des assets qu'on peut envoyer ou que vice versa on va reprendre. De toute façon, la plupart des choses sont sur internet, on n'a pas besoin de grand chose et on utilise beaucoup de templates. Donc on utilise des templates pour aller plus vite, que ce soit pour la production de contenu promotionnel, mais aussi pour le webinaire en lui-même. Donc sur Zoom, tu vas avoir le modèle de webinaire, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait on host le truc. C'est plus pratique pour nous de host l'élément parce qu'on maîtrise toute la chaîne et on va assez vite. On va assez vite pour créer le Zoom meeting, enfin le Zoom webinaire, pour envoyer les trucs, pour mettre sur HubSpot l'email d'après. Donc finalement, la proposition de on va le faire pour vous nous avantage. Parce qu'on garde les leads du côté EduSign, on peut les partager après éventuellement avec le partenaire, mais on a tout dans notre cycle bien intégré avec HubSpot, avec Zoom, avec le site web, etc. Et ça le fait plutôt bien. Donc ça prend pas tant de temps que ça, tu vois, de A à Z. Je pense qu'il y a 4 heures de travail peut-être avec le partenaire, dépendant de si le partenaire a plus ou moins de questions et si, parce que parfois il y en a qui sont un peu hésitants, tu vois, sur qu'est-ce qu'on va partager, est-ce qu'on peut se refaire un meeting, machin. Donc là, souvent on va prendre un petit meeting pour les rassurer ou leur envoyer un mail bien structuré avec ce qu'on en pense, mais c'est pas très très compliqué. Honnêtement, la plus longue discussion, en fait, c'est de trouver le sujet commun. Et après c'est bien rodé parce qu'on les a toujours structurés de la même manière, c'est toujours à peu près la même durée, c'est toujours à peu près sur le même créneau horaire, c'est toujours à peu près, enfin, je suis toujours la personne qui fait les webinaires. C'est assez facile, en fait, de suivre le truc. Et tu vois, pareil, c'est ce truc de, c'est peut-être pas la meilleure méthode. On l'améliore pas systématiquement. Mais c'est un truc qui marche, qui est rapide, qui est efficace, qui est templétisé, sur lequel on avance. On n'a pas à se poser de questions et on peut, du coup, avancer sûrement sur autre chose. Sur les tests où là, il y a plus de doutes. Donc, on perd pas trop de temps sur les webinaires non plus.
Alors, en termes d'attribution, là, par rapport, tu vois, au SEO, au podcast, comment ça se situe le webinar en termes de ROI pour vous?
Le webinar, c'est difficile à dire parce que c'est rarement le last touch point. C'est quand même ça qu'on mesure, mine de rien. Mais on voit, si on regarde le détail ce qu'on va regarder sur l'attribution, d'ailleurs, on regarde assez peu les leads, en fait, on regarde surtout les clients, pour l'attribution. Ça, je pense, c'est un point aussi assez important. Au début, on regardait un peu de manière générale en se disant, bah, tiens, webinaire, il y a tant de leads qui a été généré. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est on regarde tous les close one et on dit, bah, le close one, il vient de là. Et puis, du coup, on regarde les stats, et on se dit, bah, OK, sur les close one, c'est à peu près ça. Et ce qu'on voit, c'est que, sur les webinaires, il y a, grosso modo, 25%, si je me souviens bien, des close one qui sont passés par un webinaire à un moment. Ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas anodin non plus, parce que tout le monde regarde pas des webinaires. Donc, voilà, difficile de dire exactement l'impact en se disant, je peux pas en tout cas dire que c'est génial et que ça cartonne, et ça marche bien, suffisamment bien pour qu'on le refasse. Et on sait quand même qu'à la fin, il y a aussi de l'awareness. Ça, je pense, c'est un truc en marketing qui est difficile à mesurer. Oui, j'ai peut-être pas eu de lead, mais j'ai quand même été vu de plusieurs centaines de personnes, de l'audience du partenaire, qui le jour où, parce que peut-être qu'elle est pas prête, cette audience. On dit qu'à tout moment, dans le marché, il y a 3% des gens qui sont en train de chercher une solution, 10% qui peut-être sont en train d'acheter, 90% autres, c'est pas le bon moment. Donc, peut-être qu'ils reviendront plus tard. Et on a vu d'ailleurs des personnes qui sont revenues 2 ans plus tard, qui avaient essayé du sein il y a 2 ans, qui reviennent et qui achètent aujourd'hui. Et tu vois qu'on est resté top of mind parce qu'en fait, quand tu vas regarder le feed de ce qui s'est passé par rapport à lui, bah, il a peut-être regardé 2 webinaires, il a ouvert quelques emails, il a pas regardé tout, il est pas inscrit à tout. Mais suffisamment pour rester top of mind le jour où il est prêt, il revient et il achète.
Carrément. Là, vous avez occupé le terrain entre temps et vous avez démontré votre posture d'expert. Et sur le webinar, d'ailleurs, vous les utilisez dans le podcast. Est-ce que c'est quelque chose que vous recyclez justement un épisode de podcast ou pas?
On l'a déjà fait. On l'a pas fait systématiquement. On l'a déjà fait sur certains sujets. En fait, on l'a fait, en toute transparence, sur des semaines où on s'est dit, bah là, on n'a pas de podcast. Donc, ce serait pas mal de mettre le webinaire. Ça tombe bien. Donc, on a essayé. Ça marche pas trop mal, à vrai dire. Donc, faut l'éditer un tout petit peu. Mais ça marche pas trop mal. Faut juste bien le spécifier, je pense, que les gens s'attendent pas à une interview classique alors que c'est un webinaire. Mais ça peut bien marcher. Et d'ailleurs, un des top podcasts, c'est en fait ça vient d'un webinaire.
Ouais, moi je pense que c'est un moyen justement et ça fait aussi, ça permet de faire la promotion des événements futurs. C'est-à-dire que peut-être que la personne n'a pas vu passer le fait que vous organisez des webinaires et que si ce sujet-là l'a intéressé. Peut-être que sur les suivants, elle a tout intérêt à s'inscrire. Et je pense que c'est un bon levier. Et en plus de ça, il y a plein de choses à faire à l'issue. Tu peux même en faire des shorts. Enfin, tu peux faire plein de choses.
De manière générale, il y a un truc que les médias classiques, je dirais, font beaucoup mieux que les startups et dont je pense on a beaucoup à s'inspirer, c'est de faire des liens entre leurs médias. Par exemple, tu vas sur un article de, je sais pas, Le Monde. Alors, Le Monde, c'est peut-être pas le plus évident, mais sur pas mal de médias, tu vas te retrouver avec l'article, mais t'as aussi le podcast à droite, puis t'as le truc du webinaire à gauche, puis t'as le machin, puis t'as le bidule. Et en fait, ils font des liens à chaque fois. Quand tu regardes une émission télé, ils vont toujours te pitcher le truc qui arrive après. C'est un truc qu'on fait pas systématiquement. Hein. Moi, quand je finis un webinaire, je me dis pas ah oui, c'est vrai, putain, il faut que je pitch le webinaire qui arrive après, ou le podcast, ou le machin. On essaie de le faire un petit peu, mais pas suffisamment. Alors que c'est vraiment un réflexe, c'est dans leur checklist de trucs à faire, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc dont on aurait à apprendre encore un petit peu plus. Donc ouais, c'est un premier pas de mettre les webinaires dans le podcast, mais on pourrait probablement même aller encore un peu plus loin. Et je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on ose, en fait, de le faire, de le tester, même si ça paraît pas forcément ultra naturel de le faire. Mettre un webinaire en podcast, on peut se dire, ouais, mais c'est pas un podcast. Oui, mais pourquoi pas?
Je crois que c'est Chris Walker là de Refine Labs qui met tous ses webinars ou tous les podcasts dans lesquels il est invité, il les republie même sur son podcast.
Ah oui.
À lui.
Ah oui, d'accord. Tu cours publier l'épisode là dans Forestier.
Non, mais parce que pour lui c'est pertinent, parce que par exemple on va l'interroger sur du marketing et lui il a un podcast sur le marketing et du coup ouais, lui il n'hésite pas justement à utiliser son podcast comme outil de recyclage. Donc je trouve que c'est intéressant, mais faut que ce soit pertinent.
Ouais.
OK. Donc là on a les leviers webinar, podcast, SEO. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé aussi sur le mode un peu sales de votre côté et comment est-ce que vous êtes organisé aussi?
Alors, pourquoi on a basculé? En fait, assez simplement, une fois que tu as fait le tour du SEO, parce qu'aujourd'hui, on a un peu fait le tour sur les high intent, on se retrouve en fait, par exemple, l'année dernière, on a multiplié par 6 notre SEO. On n'a pas eu 6 fois plus de leads. Hein. Donc là, il y a un petit problème. C'est-à-dire que tu te dis, mince, je touche des mots-clés où je sais ranker, je sais faire du SEO, mais ça rapporte plus de leads parce qu'en fait, on a épuisé un peu les high intent. Ou en tout cas, il y en a quelques-uns, mais ça devient de l'optimisation, c'est compliqué, c'est moins certain de ranker. Donc assez naturellement, quand tu arrives à ce stade, il faut commencer à aller vers d'autres canaux d'acquisition. Et donc, canal d'acquisition classique, c'est la outbound. Hein. Donc ça a été la suite logique. Maintenant, sur l'organisation, on a essayé différentes choses, mais c'est mon associé Greg qui en parlerait peut-être un petit peu mieux, mais on a essayé d'avoir cette séparation SDR, BDR, AE. Ça n'a pas trop marché. On a essayé là aujourd'hui d'avoir des cycles qui sont gérés de bout en bout par un sales. Marche un peu mieux, mais il y a des downsides aussi. Ils sont moins spécialisés. Moi, je crois que la vérité, c'est que comme je te disais, on n'a pas trouvé la bonne technique. Donc moi, j'expérimente d'autres choses là sur l'international, avec plus... de bout en bout, mais en regardant vraiment tous les chiffres, toute la méthode pour pouvoir la répliquer. Donc, essayer d'appliquer ce que j'ai appliqué au marketing en sales. Et puis, on verra si ça marche. Mais je suis pas sûr qu'on ait trouvé la bonne méthode. Et aujourd'hui, nos sales, majoritairement, vendent sur des personnes qui ont du referral, du marketing ou encore. Il y a très peu d'outbound. Il y en a quelques-uns. En fait, si tu regardes même l'outbound bien souvent, il y a eu un moment du marketing où il y a eu, j'ai pu le contacter parce qu'il connaissait déjà EduSign de par ailleurs. Après c'est peut-être la bande finalement classique entre guillemets, mais quand même on voit que le marketing est important et qu'aujourd'hui en pure outbound, tu vois, faire du cold call, on n'est pas très très bon, sauf anomalie, sauf exception, et on commence doucement à trouver des pistes. Peut-être que dans quelques mois ce sera différent, mais pour l'instant on n'a pas encore craqué le game. Donc
Tu peux peut-être nous donner un petit peu plus d'éléments sur ce qui n'a pas marché selon toi. Est-ce que c'est comme tu l'as dit, on n'a pas trouvé la recette et là c'est encore une inconnue, ou est-ce que peut-être que sur le marché France, t'estimes que les comptes qui sont prêts à acheter, ils sont déjà ils sont déjà pris, ou c'est quoi un peu ton analyse là-dessus?
Faut pas que je crache dans la soupe non plus, mais moi je pense pas que ce soit une question de marché, pas vraiment, pas uniquement en tout cas. C'est une petite composante, mais en fait il y a toujours de la place parce que le marché grossit, la dématérialisation grossit de manière générale. Donc ça veut dire qu'il y a de la place un peu à minima. Après est-ce qu'il y a de la place pour faire x10, peut-être pas, mais là on parle pas de faire x10, on parle de réussir quelques deals. Donc je pense que c'est juste qu'on n'a pas la bonne méthode. C'est qu'on n'a pas la bonne organisation. Et tu vois, un truc qui résonnait pas mal chez partout, c'était visiblement la culture du cold calling, de se mettre dans la salle et d'appeler de manière féroce et beaucoup, beaucoup de leads, chose qu'aujourd'hui, on ne fait pas. Je pense qu'un sales chez partout appelle autant que tous nos sales combinés en une semaine. Tu vois, enfin, c'est... Je pense qu'il y a un peu de ça, et je pense que ça découle du fait que on a un passé de vente qui était assez facile. Tu arrives, tu fais la démo, tu vends le truc. Parce que au final, la personne est déjà convaincue avant d'arriver. Elle cherche une solution, elle n'en a pas 50 autres 1000, elle achète. Là, aller chercher d'autres personnes, ça demande une autre mentalité. Et je suis pas sûr, malheureusement, qu'on ait la culture. Donc après, est-ce qu'il faut changer les personnes? Est-ce qu'il faut changer la culture? Est-ce qu'il faut changer les méthodes? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Est-ce que... Difficile à dire, mais je laisserai ça dans les mains de mon associé pour le moment. Moi, je vais m'occuper de l'international et essayer de faire ça un petit peu différemment, et puis on verra ce qui marche.
Ok, ouais. Il y a encore, comme tu le dis, des choses qui sont en chantier. Là-dessus, peut-être juste pour bien comprendre comment se passe le cycle aujourd'hui de vente. Donc, ils viennent par le SEO, le webinar, le podcast. Ils manifestent leur intention. Et ensuite, aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est principalement du closing, c'est ça?
En fait, tu as deux chemins. Soit c'est du self-serve, donc là tu vas faire free trial, tu vas t'inscrire, tu vas faire ce que tu veux sur AdSign. Potentiellement, tu vas payer tout seul. Ça, il y en a qui ont même pas de contact sales, qui vont de bout en bout tout seul. Donc ça, c'est plutôt les petits comptes. Ils vont se faire appeler par un sales, mais ils sont pas obligés de répondre. Et ça, on va pas forcément insister plus que ça sur les petits comptes. Et après, il va y avoir par contact. Donc là, c'est demande de démo. Donc là, ça va être contact. Un sales va rappeler. Va y avoir la qualif pour vérifier, parce qu'il y a quand même pas mal. En fait, l'avantage et l'inconvénient du site, c'est qu'on est en B2B2C, donc on a aussi pas mal de profs et d'apprenants qui viennent sur notre site et qui en fait se trompent. Donc c'est un peu malheureux. Donc on doit trier, on a des filtres, mais même malgré ces filtres, il y a quand même des erreurs. Donc on doit mettre une petite qualification. Ensuite, va y avoir le call de démo, et après le cycle de vente va dépendre en fait de la taille de l'entreprise, de quels sont ses enjeux. Parfois tu as 10 personnes à convaincre avec un comex qui valide le truc. Parfois c'est juste moi je suis le DSI, je choisis, hop, let's go, j'ai le budget, j'achète. Ça dépend. Donc ça varie pas mal.
Sur ce cas de figure là de vente complexe, qu'est-ce que tu as appris tu peux partager là-dessus? Est-ce que parce que tu me disais aussi quand on s'est parlé la première fois que vous avez été capable de leur vendre le produit avant même qu'il soit pleinement opérationnel, parfait. Et qu'est-ce que tu as appris là-dessus? Parce que tu as beaucoup de startups qui se cassent les dents sur ce type de vente alors même que le produit est opérationnel.
Ouais, alors pour moi c'est un peu deux questions différentes. Tu vas avoir comment vendre un produit à des enterprises tout de suite. Et pour nous la solution ça a été de penser le produit pour à la fois les enterprises et pour les petits. Donc on a toujours eu un peu cette balance entre les deux. Et donc penser le produit pour les deux, ça veut dire que tu dois pas avoir les petits qui se retrouvent avec un cockpit d'avion de chasse hyper complexe où il y a trop de trucs et ils comprennent rien. Et en même temps, les grands comptes doivent pas se retrouver avec peu de features et ils doivent quand même avoir la checklist minimum. Donc, pour faire les deux, on investit pas mal dans le design. L'UX/UI, c'est un truc qui est assez important. Je faisais au début des designs et c'était vraiment le... Enfin, il y a des features, on les a pas fait parce que on n'avait pas encore le design, parce qu'on disait non, là, on sait pas si ça va pas casser le truc. Si... Donc, on n'hésite pas à dire non. Et d'ailleurs, parfois, on ralentit peut-être même un peu trop sur certains choix. Parce que justement, on ne veut pas rajouter de la complexité et on ne veut pas que ça soit difficile. Sur les grands comptes, ce qui va faire la différence bien souvent, c'est l'accompagnement et c'est montrer qu'on est capable de faire. En fait, montrer qu'on est capable de faire, tu peux le faire dès le début, même si t'as personne, parce qu'il suffit d'avoir une ou deux références. En fait, même c'est pas des vraies références. C'est-à-dire même, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais on peut mentir. c'est possible. Donc, tu peux dire, oui, on a fait ça avec ça, avec ça. Et en fait, on a un peu fake it till you make it assez longtemps. Et au début, par exemple, pour donner un peu une anecdote, l'archivage de feuilles de présence, c'est assez important parce que c'est un document comme une facture. Tu dois l'archiver de manière légale pour que ce soit bien stocké pendant plusieurs années. Et en fait, on ne savait pas si notre archivage était valide pendant plusieurs mois. Et donc pendant plusieurs mois, quand la personne nous demandait, on disait oui, c'est tamponné par machin, il y a pas de problème, c'est tout machin, tous les opcos nous connaissent. Parce qu'en gros, il y a une douzaine d'opcos qui sont nos interlocuteurs privilégiés, et donc est-ce que ils vont accepter nos feuilles de présence, est-ce que l'archivage est bon. On disait oui, et ils sont tous au courant, il y a pas de problème. Et en fait, on s'est retrouvé à parfois avoir des problèmes et dire ah mais non, mais ils ont juste pas compris. Donc après on contactait l'opco en disant ils ont votre solution là. Enfin, ils ont notre solution, donc en fait, vous pouvez pas refuser, quoi. Genre, acceptez-le, parce que de toute façon, sinon, enfin, c'est légal. Et en fait, on reprenait la loi en disant, non, mais en fait, il suffit d'avoir ça, ça, ça. Donc, on arrive au bout, quoi. Et au final, on s'est retrouvé à convaincre tous les opcos. Il y en a qui ont accepté par défaut, d'autres pas. Mais donc, ce fake it till you make it nous a permis d'aller chercher ces personnes-là. Ou si on avait dit, non, on sait pas, ou on hésite, ça marcherait pas. Et à tel point que ça m'est déjà arrivé d'avoir des conversations avec un client, on dit oui, on connaît par cœur ce sujet. Je raccrochais, j'appelais mon associé en disant, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais de quoi on parle, là? Et au final, c'est pas très grave. Parce que, en fait, moi, je préfère signer un client et dire, je suis désolé, en fait, on n'a pas réussi à délivrer, je te rembourse tout. Et voilà, il va comprendre, il y a pas de problème. Et ça nous est quasiment jamais arrivé, si ce n'est d'ailleurs, je suis même pas sûr que ça nous soit vraiment arrivé, plutôt que de dire, je te prends pas parce que j'ai peur de pas savoir faire. Donc non, on y va, on tente. Et tu veux la super API machin, mais pas de problème, on va le build en fait. Donc au début, on a très vite build des choses. Lorsqu'on en avait, c'était just in time quoi. C'était le truc de ok, on en a besoin pour ce truc, bah hop, on le fait là ce week-end, boom, let's go. Donc c'était du développement très très rapide. Parfois c'était bidouillé, parfois on arrivait avec la solution qui était à moitié faite. On disait oui oui c'est normal, c'est encore en construction, ça arrive très bientôt et puis hop, on le livrait très très vite. Alors qu'on savait pertinemment que c'était normal que ce soit pas fait parce que c'était juste pas là présent, enfin c'était pas présent 48 heures avant quoi. Donc ça on l'a fait pas mal jusqu'à arriver au stade où tu as une bonne marque, où tu as des références, où tu as la validation, où tu as les features, et là on n'a plus à se battre hein. Là maintenant c'est très clair, il y a plus de problème. Et donc au début c'était vraiment ce combat, et en gros c'était cette mentalité de tout deal doit passer sauf si ça change complètement notre roadmap, parce que par contre il y a quand même une nuance là-dedans à mettre niveau product management qui est assez importante. On peut pas faire n'importe quoi dans le produit, et c'est pour ça que je disais l'UX UI, parfois on a dit non et parfois on a refusé des clients, ça nous est quand même déjà arrivé parce que ça déviait trop. Par exemple le jour où quelqu'un nous a dit bah moi je veux un truc de gestion de compétences, non nous on gère juste l'administratif, on fait pas ça, désolé, si tu veux ça voilà je te recommande, et ça nous est déjà arrivé de recommander d'autres logiciels. Tu veux un LMS, bah va prendre ça, va prendre tel logiciel. Ça on le fait pas. Par contre sur ce qu'on fait, sur en gros tout truc qui concerne l'assiduité typiquement, ouais on sait faire, pas de problème. Allons-y. Et pendant longtemps. Et bien souvent quand il y a une liste de 15 trucs, la question qu'on pose c'est OK mais juste c'est quoi les deux ou trois trucs vraiment importants? Et on faisait que ces deux ou trois trucs et 12 autres on les a pas fait même 18 mois après parfois. C'est pas grave parce qu'en fait bien souvent les rencontres ils ont une liste de contraintes, mais une fois qu'ils ont acheté, une fois qu'ils ont validé le truc, une fois que ça tourne et que l'essentiel est là, ils vont pas trop t'embêter hein, honnêtement. C'est pas trop le sujet. Par contre faut que ça tourne quand même, c'est le truc qui peut être un peu difficile. C'est pour ça que le support client doit être de qualité. Et au début moi je tenais vraiment à répondre aux mails en moins de 5 minutes. Donc la moyenne de réponse aux mails c'était genre 2 minutes, de 8h à minuit quoi, et c'était répond très 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 vite parce que il y a un bug mais on l'a pris en compte, let's go, on avance, t'as le meilleur service client possible. Et du coup ils se sentaient entendus, et ça tu peux le faire quand t'as peu de clients, parce que si t'as au début 5 grands comptes, t'as 10 grands comptes, tu peux les gérer comme ça. Une fois que t'en as 200, là tu dois trouver d'autres choses, mais à ce moment là t'as d'autres features, enfin faut espérer quoi. J'ai pas, si t'as une fusée qui fait tout de suite 200 grands comptes en fake it, bon là t'auras peut-être un autre problème, mais en réalité il y a peu de chances quand même que ça arrive, je pense.
Ah, donc pour toi sur la partie grands comptes, je dirais c'est pas bon. Après j'imagine que ça dépend aussi des marchés, de l'urgence du problème et de voilà des solutions disponibles à un moment T. Mais la partie on est capable de vous aider, on est capable d'être réactif, est limite plus importante que les capacités du produit à l'instant T sur lequel tu peux, comme tu l'as dit, un peu faker au début.
Ben oui, mais c'est parce qu'en fait, les personnes sur n'importe quelle boîte viennent chercher une solution à un problème. Donc l'important, c'est pas la liste des features, c'est d'abord, est-ce que tu résous leur problème? Si tu arrives à résoudre leur problème, le reste, ça a assez peu d'importance, en fait. Alors, il y aura le prix, hein, évidemment, on va négocier quand même un truc. Et parfois, le prix, d'ailleurs, va aider hein, aussi à vendre. Et puis, tu as les trucs de RGPD, de sécurité. Tu vois, typiquement, RGPD, sécurité, c'est des trucs, mais on n'avait rien du tout pendant longtemps, hein. Et c'est, enfin, on avait les cookies sur le site, ok, c'est cool. Mais en fait, légalement, enfin, il y avait rien, c'était du vent. Donc, en gros, tu dis ouais, il y a pas de problème, on est parfait. Vous pouvez même nous envoyer vos documents si vous voulez, on les relit. Et puis, en fait, tu dis oui, ça on l'a. Et puis, parfois, je peux le dire hein, maintenant. Parfois, il y a des trucs où on a menti. Maintenant, on les a. Mais c'est pas grave. Au début, de toute façon, si la boîte est cool, il se passe quoi? La boîte est cool, tu vois, c'est tout. Par contre, si je signe pas ce client, peut-être que la boîte va couler, alors que j'aurais pu ne pas la faire couler. Donc, ouais, c'est peut-être pas top. Il y en a qui diront moralement, c'est pas super, super. Mais la vérité, c'est qu'au début, sur les exigences grand compte, je pense qu'en tant que startup, il faut avancer un peu. Surtout si on est bootstrap. Enfin, en tout cas, si on n'a pas si tu lèves 10 millions, peut-être que là, l'équation est un peu différente. T'as peut-être le temps de faire ces choses-là. Et encore que, c'est peut-être justement le piège de penser que t'as le temps parce que t'as l'argent. Mais du coup, on peut avancer souvent plus vite que ce qu'on pense. Maintenant, tous les sujets sont pas aussi critiques les uns que les autres. Nous, on récupère beaucoup de données de tous les employés. Donc, la RGPD est importante. Par exemple, on va pas taper les trucs financiers de la boîte. Donc là, c'est peut-être niveau sécurité qu'il y aurait vraiment un truc beaucoup plus robuste nécessaire. On nous a jamais embêté parce qu'on n'a pas l'accréditation SOC 2 machin de plus de sécurité. Donc on a aussi une chance de ce point de vue-là.
Je vois que le temps avance. Je suis obligé d'avancer sur la partie pricing. En plus, tu as parlé du prix qui peut être un élément important. Quand on s'est parlé la première fois, tu m'as dit que vous étiez passé de l'usage-based pricing, donc pricing à l'usage, au pricing par utilisateur, c'est ça?
Enfin, en tout cas, en fait, on est toujours par usage-based plus ou moins. C'est ouais. Juste que la notion a un petit peu changé. En gros, au tout début des DuSign, on s'est dit notre concurrent, il facture un frais fixe par mois, et donc qu'est-ce qui pourrait faciliter l'achat? Qu'est-ce qui pourrait faire que, vu qu'on a une solution un peu pourrie au début, les gens vont venir dessus sans se poser de questions? Eh bien, ça a été de dire: vous avez un abonnement et vous payez à la signature. Vous payez 25 centimes de la signature. À l'époque, c'était ça. On disait, c'est simple. Si le produit, tu l'aimes pas, tu peux arrêter demain, il ne sera pas facturé. Donc, et tu peux arrêter à tout moment, littéralement. T'as pas d'abonnement. T'as rien. Ça, c'est super au début et je regrette pas de l'avoir fait parce que ça a permis, du coup, d'engager des gens qui probablement ne seraient pas venus. Parce que si tu leur demandes tout de suite de payer 500 euros par mois, de s'engager sur un an, c'est lourd. En vérité, c'est lourd. C'est un truc, on pense tout de suite en SaaS que l'abonnement, c'est le Saint Graal, c'est le truc qu'il faut absolument et on peut pas dévier un tout petit peu. Moi, je pense qu'au début, on peut, au moins au début. Après, ça a causé des problèmes. Le tracking de cette donnée était chaotique. On n'a pas réalisé qu'il y avait du churn alors qu'il y en avait. Parce que, en fait, tu te dis, mais à la fin du mois, je vais regarder. En fait, mais si tu dois attendre la fin du mois pour savoir que la personne a churn au 2 du mois, c'est un peu embêtant. Donc, parce que tu peux plus le rattraper, quoi, c'est sûr. Il y a pas autre chose. Et puis, t'as pas prévenu, en plus, qu'il y a de churné. Donc, ça, c'est un problème. Donc, au fur et à mesure du temps, on a réalisé que c'était un problème. Et donc, assez rapidement, on est passé sur un mode par abonnement. Et cette fois-ci, on faisait par abonnement, mais toujours avec usage base, uniquement sur l'émargement, sur l'assiduité, et c'est tout. Donc là, ça a été un prix qui était sensiblement le même, mais on demandait un engagement de signatures, donc avec des prix qui étaient par exemple avec 100 signatures par mois, donc le plus petit forfait c'était 15 euros par mois. D'ailleurs je dis ça, mais en réalité t'avais même des gens qui payaient moins parce que ceux qui étaient justement en usage base, full usage base, on les a passés sur des petits abonnements, donc t'avais même des clients qui payaient 5 euros par mois à un moment, enfin, des trucs rien du tout quoi. En tout cas en B2B c'est vraiment ridicule d'avoir ça et je recommande pas. Et par contre ça a permis d'avoir du referral, mais bon, à un moment faut arrêter. Et donc assez rapidement on a eu ce passage sur par abonnement, mais à ce moment-là on n'avait pas 50 abonnements, d'ailleurs on n'a toujours pas 50, mais on n'avait pas en tout cas de complexité produit. On avait un abonnement sur l'émargement, on faisait que ça pendant longtemps, on a fait quasiment que ça. Et on offrait en fait les fonctionnalités en plus qu'on avait. Par exemple, on avait développé un module questionnaire, on le mettait, on le donnait. Tu vois, il y avait même pas de discussion, c'est tu l'as en plus, sache-le. Genre c'est bonus. En fait, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau aussi, c'est le petit truc, tu viens chercher l'émargement, je t'offre un truc de questionnaire d'ailleurs. Il y en a du coup qui sont passés de je paye 30 euros par exemple par mois sur Remonkey à je paye 15 euros par mois sur EduSign et en plus j'ai le truc de questionnaire. Donc en gros, ils ont baissé leur prix et en plus il y avait plus de valeur. Donc là c'était top. Ils ont pris un logiciel qui buguait à l'époque, mais ils s'en sont sortis quand même. Et donc après, on a introduit une deuxième composante qui est la composante produit. Donc là, à ce moment-là, on disait si tu as tel abonnement, tu as tel nombre d'émargements, mais tu as aussi telle fonctionnalité. Donc ça a été un changement assez fort et qui a permis de globalement doubler les prix avec EduSign assez rapidement. Parce que quelqu'un qui prend un abonnement avec 100 émargements, en réalité, il en consomme en moyenne 30. On est à peu près à 30%, peu importe le palier de consommation. Donc ça veut dire que si je te mets un abonnement avec 1000 émargements, tu en consommais à peu près 300 en moyenne. Et le truc assez intéressant, c'est que on a fait ça. Donc déjà, on a augmenté tout de suite la valeur parce qu'il y a des personnes qui passaient sur le pack supérieur. Et ensuite, on a rajouté une autre composante, En tout cas, on a changé nos prix par rapport aux données qu'on avait pour augmenter la valeur par client. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé le prix, par exemple, du tarif à 15 euros par mois en se disant, de toute façon, les petits vont passer sur celui-là. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a éliminé pas mal de supports, du coup, qui étaient un peu emmerdants sur les tout petits, qui étaient presque du B2C, tu vois, qui posent beaucoup de questions. En fait, un tout petit client à 15 euros pose quasiment autant de questions qu'un client à 300 euros par mois. Donc ça, c'est un coût quand même. Faut l'avoir en tête. Un ticket au support, ça coûte 1 euro à répondre, grosso modo. Donc s'il pose 5 questions, ça coûte un peu, quoi. Bon, après, t'es toujours rentable, mais ça commence à fatiguer l'équipe aussi. Donc, il faut prendre ça en considération. Donc on a modifié nos prix pour arriver à doubler globalement quasiment la valeur par client à nouveau sur ces petits comptes en faisant ça. Donc à la fin, on s'est retrouvé, alors c'est pas tout à fait du x4, mais pas loin, vous avez du x3,5 sur les petits comptes. Et on a des personnes qui aujourd'hui achètent un abonnement avec 1000 émargements parce qu'il y a les fonctionnalités, Et parce que à la base, en gros, on avait un forfait qui, le forfait le plus prix était à 350 hébergements par mois, ce qui correspondait à un besoin assez proche de leur réalité. Parce qu'en fait, il y a pas mal de OF qui se situent dans la même gamme, on va dire, et qui ont entre 100 et 300 hébergements. Donc, c'était pas mal. En fait, ce qu'on a fait, c'est que simplement celui-là, on l'a supprimé. Ou en tout cas, on a enlevé les fonctionnalités qui étaient pas intéressantes. On a augmenté le prix de celui-là. On a mis celui, le pack au-dessus, à un prix qui était moins cher à la signature et avec plus de fonctionnalités, mais avec un palier plus haut de signature. Donc, autrement dit, si je résume, parce que ça peut paraître un peu flou, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté la valeur perçue parce que le prix à la signature était plus bas. Donc, on est passé de 25 centimes de la signature à 10 centimes de la signature aujourd'hui sur le papier. Donc, tu te dis, ok, c'est deux fois moins cher, deux fois et demi moins cher à du sein. Sauf qu'en réalité, on sait que tu vas consommer plus que deux fois moins vite. Et donc, on se retrouve en moyenne avec des gens qui payent 60 centimes de la signature aujourd'hui. Même 65 centimes, je crois, sur un certain plan. Et donc, ils ont l'impression de payer 10 centimes, ils payent 65 centimes. Mais en même temps, c'est pas forcément du vol, hein, parce que ils ont tout le reste. Ils ont toutes les autres fonctionnalités. Et je pense que ça, c'est un truc qui est difficile à faire comprendre parfois, c'est qu'on essaie de passer d'une commodité à un service, à une plateforme, à un tout, et pas juste l'émargement. Parce que le problème, c'est que la solution de l'émargement, en fait, on l'avait au bout de 3 mois. Et peut-être de manière top, au bout d'un an. Mais au bout de 4 ans, t'as autre chose. T'as plein d'autres trucs. Et donc, il faut aussi savoir les valoriser. Sauf que le problème, c'est que le client, il vient toujours pour la même chose. Il vient toujours pour l'émargement d'abord. Donc, comment tu lui montres le truc? Bah, soit tu lui pitches le truc, c'est une solution. Soit tu augmentes la valeur perçue. Et c'est plus facile. Parce que du coup, il y a moins de débats à avoir. C'est, tu mets plus dans le pack. Et in fine, il se retrouve à payer parce qu'il dit, bah oui, moi, c'est bon, ça rentre dans mon besoin et ça marche pas trop mal. Donc ça, on l'a fait pour les petits comptes. Et sur les grands comptes, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé d'un pricing à la signature, à un pricing par l'apprenant, donc à la personne qui va suivre un cours. Et là, on a augmenté la valeur. Pareil, aussi avec des fonctionnalités différentes en fonction des packs. On a augmenté la valeur en faisant ça. Mais la valeur est augmentée d'une manière un peu moindre parce que t'as un élément que tu as pas en petit compte. C'est que les petits comptes vont pas trop regarder la concurrence. Et globalement, d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur les petits comptes. Alors que sur des grands comptes, il y a des appels d'offres. Donc là, il y a quand même une composante qu'on ne peut pas ignorer, qui est d'avoir un prix plancher qui est aligné avec la concurrence. Parce que si déjà sur le prix plancher, on est deux fois plus cher, on est mort. Même si on a 10 fois plus de fonctionnalités. Donc il faut qu'on ait le prix plancher avec un minimum de fonctionnalités. Et après, t'as les trucs plus hauts si tu veux plus. Et souvent, ils se retrouvent avec beaucoup plus. Mais il faut avoir ça quand même. Donc, il y a ce truc à prendre en compte.
Donc du coup, toi, t'as essentiellement travaillé, comme tu le disais, sur la valeur perçue en augmentant le nombre de features sur les packs. T'as aussi ajusté la variable de pricing. Tu le disais là sur les grands comptes de passer de la signature à l'apprenant. Donc t'as joué sur ces variables là. C'est quoi, tu vois, avec tous les tests que tu as fait, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Parce que ça a pas freiné ta croissance. Ce que tu me disais, c'est au contraire. Donc, c'est quoi un peu tes observations là-dessus?
Mes observations, alors ça peut quand même freiner un peu la croissance, hein, parce que si tu augmentes tes prix, mine de rien, tu as quand même moins de clients. Tu as peut-être plus d'argent, mais tu as moins de clients. Et plus de clients, ça veut aussi dire plus de awareness. Donc, ça veut aussi dire potentiellement, in fine, plus de clients. Donc, c'est un truc où je suis pas sûr que d'ailleurs que soit 100% convaincu de ce point de vue-là que c'était la meilleure décision. Mais bon, le MRR dit que c'est plutôt une bonne décision. Donc ça, c'est le premier truc quand même. Faut se poser la question parce que dépendant de la capacité d'acquisition que vous avez en dehors du produit. Je sais que si le produit, c'est vraiment votre moyen d'acquisition première, peut-être que c'est pas la bonne décision d'augmenter les prix. Et surtout, pas le faire tout de suite. Je pense que c'est un truc, faut pas survendre au début. Moi, je regrette pas d'avoir fait des prix moins chers au début. Je regrette certainement pas d'avoir fait un truc qui était complètement what the fuck, finalement, au début, en termes de tracking, mais qui a permis d'enclencher des ventes tout de suite. Parce que ce qui est plus important, moi, je préfère... enfin, en tout cas, je regrette jamais d'avoir vendu tout de suite et de pas avoir donné gratuitement. Parce que moi, je vois à l'inverse des gens qui disent... Bah, le prix il est là, mais en fait je te fais gratuit parce que c'est pas encore prêt, parce que machin. Non, tout de suite vendu, même si pas cher, vendu quand même. On sort la carte, c'est un effort de sortir la carte. Donc ça c'est le premier truc. Après, je dirais que la perception est vachement importante. Et moi un truc que je vois, on a eu le débat tu vois, avec mon associé et en fait les stats montrent que enfin c'est différent, mais en gros si tu mets un truc en add-on, la valeur perçue va être enfin le prix va être comparé à l'add-on. Si tu mets l'add-on avec 10 autres trucs dans un plan, même si la personne passe que sur le plan pour l'add-on, ben elle voit tout le reste quand même. Et donc elle mesure plus le prix par rapport à l'add-on, en tout cas c'est rare que les gens le fassent, ils mesurent le prix par rapport au plan global. Et finalement, si tu regardes dans l'usage, les personnes ne vont pas utiliser tout. En tout cas, c'est rare. Et donc, ce qui fait que, ou t'as du temps, parce que au pire, t'es en SaaS, c'est pas grave si au bout de 2 ans, ils utilisent tout. Parce que dans ce temps-là, t'auras d'autres gens, t'auras eu de la croissance, c'est pas un problème. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'usage. Moi, je vois beaucoup de gens qui définissent le pricing en fonction du coût. Très mauvaise idée. Bon, ça, c'est assez évident. Mais aussi,
quand tu dis en fonction du coût, c'est-à-dire, ils prennent le coût, ils prennent leur marge et donc, ils déterminent, je sais pas, si ça nous coûte 20 €, on veut une marge de X%, c'est 20 € plus la marge.
Bah, c'est ça, mais je te donne un exemple. Nous, une feuille de présence, admettons que ça nous coûte 10 centimes à stocker. Si tu fais 100 feuilles de présence dans le bois, ça va nous coûter, je sais pas, 10 €. Donc ça veut dire que si je te fais un pricing à 100 feuilles de présence par mois pour 10 €, tu vas me dire, mais c'est absurde. Ouais, mais va regarder la donnée, en fait. Va regarder la donnée, parce que si véritablement la moyenne, c'est 20 feuilles et pas 100, même si ton pricing, en fait, sur le papier, il marche pas, il marche très très bien. Il marche excellemment bien même, parce que t'as quand même 80% de marge. T'as pas de problème. Et donc, il faut faire attention à ces trucs-là, parce que moi, souvent, je vois des extrêmes. Par exemple, à un moment, parce que pour tester les pricings, on l'a fait souvent en no-code. On n'a pas hésité à dire, bah en fait, il y a des barrières virtuelles. C'est-à-dire qu'on dit, bah c'est limité à 1000. En fait, en réalité, t'as des gens qui en ont fait littéralement 3000, on n'a pas vu tout de suite. Mais c'est pas grave, parce que c'est 1% des gens. Cette personne-là, elle va rester, du coup, parce qu'elle aura jamais un meilleur pricing ailleurs. Elle va être ambassadeur, a priori, ambassadrice. Et ensuite, les autres gens vont te compenser largement, parce que si ta moyenne, en fait, tu regardes la moyenne. En gros, faut regarder la moyenne, la médiane. Les extrêmes, c'est pas très grave. Et c'est pas grave s'il y en a qui dépassent. La barrière, tu peux la mettre plus tard. À la limite, ça te donne une bonne raison de les surfacturer plus tard. Donc c'est pas très très grave. Donc je pense qu'il faut regarder l'usage véritable. C'est pas parce que demain là, moi je rajoute une feature de, admettons que je mets un truc de signature électronique ou de paiement, tu vois, je mets un truc de paiement. Je le mets et puis je me dis, bah moi ça me coûte 10 € par utilisateur. Je le mets dans le plan supérieur il est au même prix. Ou il est 10 € plus cher. Puis, bah c'est pas très rentable. Ouais, mais en fait, quasiment personne va utiliser. La vérité, c'est que l'adoption de nouvelles fonctionnalités, même sur un même produit, c'est très faible. Enfin, j'ai pas les stats des autres SaaS, peut-être qu'on est très nuls, mais en tout cas, moi je vois quasiment jamais une adoption à plus de 30% d'une fonctionnalité sur toute la masse client. C'est parce que t'as d'autres logiciels, parce qu'ils le voient pas, parce qu'ils le voient pas, rien que ça déjà. Ça c'est un truc. Tout le monde va pas chercher les détails dans les SaaS. Donc ça c'est un petit détail. Voilà. Donc il y a des exceptions à ce que je raconte. Mais c'est ça qui permet d'avoir des pricing assez attractifs. Et par exemple, sur une plateforme de podcasting, tu peux faire à l'heure ou tu peux dire, bah, c'est tout limité. De toute façon, ma moyenne, elle est à 5 heures par podcaster. Donc, je sais que je suis rentable. Et du coup, tu changes ton pricing, par exemple. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir un usage base à un moment, quelque part, pour permettre de vendre plus cher. Parce que si tu mets tout illimité à un moment, parce que ça, c'est aussi peut-être le contre-pied, de se dire, moi, j'ai déjà vu des SaaS où ils mettaient 250 €, t'as tout illimité forever. Mais la personne a été prête à te payer 2 500 €. Pourquoi tu les prends pas? C'est con. Donc, il faut peut-être quand même, et ça, c'est un truc qu'on a fait assez vite. On a facturé très cher et du sign sur, par rapport à ce que c'est, très honnêtement, très cher, sur des grands comptes. Et aujourd'hui, ils en sortent beaucoup de valeur, mais si la personne est prête à dégainer 50 000 € par an, c'est un peu dommage de mettre illimité sur ton site pour 200 €. Petite attention à ça aussi. Donc, faut trouver le juste milieu, faut regarder ces données. Et si vous avez pas de données, j'ai commencé simple, pas cher pour en avoir, et après vous en aurez, et après vous pourrez déterminer le truc. En tout cas, nous, ça a été une recette qui a plutôt bien marché.
Ouais, je pense que, c'est vraiment le learning qui ressort. J'ai écouté un podcast la dernière fois avec Patrick Campbell de Paddle maintenant.
Oui. C'était Profitwell, je crois, à la base, c'est ça.
Profitwell, ouais, qui a été racheté par Paddle. Et de toute façon, si tu testes pas, tu peux pas avoir de data. Donc, y a un moment donné, ton intuition, elle vaut rien en pricing. Et la plupart du temps, 99% du temps, ça se passe bien. Mais ce que t'as dit sur l'add-on tout à l'heure, c'était hyper intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'add-on, si tu fais un deuxième package avec juste l'add-on en plus, on va comparer la valeur du pack 2 par rapport à l'add-on. Mais s'il est noyé, je dirais, dans un set de features supplémentaires, c'est là où, en fait, t'arrives à pricer plus cher. C'est bien ça?
Mais alors, juste attention quand même, hein. C'est pas universel comme règle. Faut pas en tirer une règle universelle, puisque t'as des add-ons qui sont justifiés en add-on, par exemple. Moi, je te mets un add-on, je sais pas, SSO. En fait, t'es un grand compte.
Ouais.
Vu que c'est en soi un truc que tu peux déjà facturer très cher, c'est peut-être OK de le facturer parce que les grands groupes sont OK avec ça. Je pense que c'est plutôt un truc sur l'USMB que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et par exemple, HubSpot le fait très, très, très bien. HubSpot, tu vas passer sur le plan supérieur parce que tu veux une feature, pas ou t'en veux deux. Et puis en fait, une fois que t'en as trois sur la liste des 150, bah hop, tu passes au truc au-dessus. Et tu vas pas prendre un add-on, c'est très rare. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des add-ons sur certains éléments, que ce soit par rapport à du usage base ou que ce soit par rapport à un truc très spécifique, comme, je sais pas, un nom de domaine, un truc, ou qui a un coût, par exemple, pour toi. Tu vois, si ça a vraiment un coût, bah oui, effectivement, là, il faut peut-être, tu vois, si c'est un service additionnel, peut-être qu'il faut le mettre en add-on et pas dans le plan. Si tu mets un accompagnement, bah ouais, c'est peut-être plus intelligent parce que c'est pas du récurrent, par exemple. Donc, voilà, il faut voir, c'est pas une règle universelle, mais c'est une question à se poser, en tout cas, parce que bien souvent, je vois quand on ajoute un truc, c'est un add-on. Et après, il faut se poser aussi la question de est-ce que c'est un autre produit ou pas? Est-ce que c'est complémentaire? Parce que c'est difficile de vendre un autre produit complètement différent dans un même plan, et ça, nous, on le voit. En même temps, ça peut aussi être un avantage si on le vend moins cher dans le plan parce que tu prends la moyenne. Donc, il y a un choix à faire. Mais une fois que ton produit est suffisamment mature, peut-être qu'il vaut mieux le détacher. Après, ça se dépend. Donc, je dirais, faut s'adapter, faut regarder les données. Moi, je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est regarder les données. N'hésitez pas à tester rapidement. Et nous, on itère de pricing en moyenne tous les 6 à 9 mois, quoi.
Quand tu dis que vous regardez les données pour faire vos itérations, tu regardes quelles données, toi, en particulier, justement, pour te forger une conviction sur OK, on va tester ça?
On regarde énormément de données produits. Donc, on extrait beaucoup de choses du produit. On regarde les données de Stripe, parce qu'on facture tout par Stripe.
Quand tu dis le produit, pardon, tu regardes quoi précisément? Tu utilises quoi? Tu utilises un mix panel ou équivalent et tu regardes quelle data?
En fait, on plug Segment, donc il y a un outil de tracking sur le SaaS. On envoie la donnée sur Amplitude, donc ça peut nous donner déjà un premier aperçu. Et après, on va regarder aussi et on l'envoie sur HubSpot d'ailleurs, ce qui est assez pratique parce que ça nous permet d'avoir, par rapport à un compte sur HubSpot, son usage sur le logiciel. Donc ça, c'est plutôt cool quand ça marche, parce que parfois il y a des petites erreurs de tracking, malheureusement, faut aussi l'avoir à l'esprit. Et ça, faut le prendre en considération aussi. Quand on fait des analyses, faut faire attention, faire vraiment attention avec la data analyse quand on fait ce genre de choses. Et après, on va regarder sur la DB. Donc là, on va faire des exports, on va regarder, on va faire des trucs SQL pour prendre ce qu'on veut. Comme par exemple, imaginons que demain, moi, je veux faire un add-on, admettons, de questionnaire. Je me dis, OK, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Déjà, la première question, c'est combien de pourcentage de ma user base aujourd'hui utilise le questionnaire, sachant que c'est gratuit? Si c'est 5%, je vais peut-être me dire, attends, faites peut-être que le produit soit pas compris, soit il est nul. Donc il faut que, ou il y a une alternative bien meilleure. Donc il faut que je l'améliore peut-être d'abord. Donc je peux pas le passer en produit. Si par contre je vois qu'il y a 50% des gens qui l'utilisent, qu'il y a une utilisation régulière, donc là je vais aller plus en détail, je vais regarder combien ils utilisent, pour qui, et c'est qui utilise surtout. Est-ce que c'est plutôt les petits, est-ce que c'est plutôt les gros? Parce que je refais pas mon pricing sur les gros et les petits en même temps. Je fais sur les gros puis je fais sur les petits, ou je fais l'inverse. Mais je fais pas les deux en même temps. C'est deux choses différentes, c'est deux cycles de vente différents. Et t'as quelque chose que tu vois, quelque chose qui se négocie. Déjà aussi, c'est différent. Et donc, on va regarder toutes ces données. On va les foutre dans un tableau Excel, un Google Sheet. On va donc mettre les données de Stripe, les données du produit, les données d'HubSpot. Et après, on va faire des hypothèses. Donc, parce qu'en fait, on essaie toujours de partir d'une hypothèse. On va dire, OK, nous, on pense que mettre tel truc en add-on, ça peut être intelligent. OK, mais que dit la data? On pense que aujourd'hui notre pricing sur ce plan là il est un peu bas, on sent qu'il y a de la friction, on va aller dans un sens ou dans un autre, et donc là on va regarder la data par rapport à cette hypothèse et on va essayer de l'augmenter. Par exemple, là dernièrement on avait un pricing où on se retrouvait à avoir une déclinaison en fonction du usage base qu'on laissait en fait au choix de l'utilisateur. On disait est-ce que tu veux 1000, est-ce que tu veux 500, est-ce que tu veux 350 signatures par mois, quelque chose comme ça. En fait, on a réalisé que tout le monde se retrouvait dans le bas du panier. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris on a mis tout au max et on a baissé le prix par contre du plan. Donc, ce qui fait que ils ont eu l'impression que le prix du plan a baissé. Alors, fondamentalement, il a augmenté. Et donc là, ça donne un truc intéressant. Et donc, on part de ces hypothèses, on fait des calculs, on regarde les trucs. Et parfois, on va regarder aussi les données qualitatives. On va se dire, OK, mais est-ce qu'il y a eu du churn et pourquoi? Si à chaque fois on nous dit bah c'est le prix trop cher, ok, faut que je fasse peut-être un petit peu attention à cet endroit-là. Si à chaque fois on voit qu'il y a une négociation très très courte, que la viscosité du deal est extrêmement rapide, peut-être qu'on n'est pas assez cher. S'il y a zéro churn, t'es probablement pas assez cher. S'il y a vraiment zéro churn. Moi, je suis presque content parfois quand il y a du churn. Tu vois que la personne me dit, là, c'est un poil trop cher. Si on te dit jamais que t'es trop cher, c'est que t'es pas assez cher. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont pas d'argent. Donc, si même la personne qui dit qu'il a pas d'argent dit que c'est pas cher, c'est que t'as peut-être un petit problème. Donc, il faut que t'apportes de la valeur. Mais en même temps, il faut quand même monétiser ton truc. Et j'avais plus le temps passe, plus il faut monétiser. Après, c'est un calcul. Hein. Est-ce que t'es en mode grosse? Est-ce que tu veux absolument croître? Et tu peux augmenter le prix plus tard. C'est la méthode de plein de startups. Moi, j'ai pas la recette universelle. Hein. Il y a plein de boîtes qui ont fait complètement différemment et ça marche très très bien. Je dirais juste en tout cas que quand on fait une analyse et qu'on souhaite augmenter le MRR sur un plan, ça peut être bien de regarder la donnée, de partir d'une hypothèse, de la tester, sur le papier donc, et après de la tester en réel. Et pour la tester en réel, il y a différentes méthodes. Hein. Parfois, sur les grands comptes, on va juste la tester lors des renewals, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es prêt? Si ça passe pas, bah on revient en arrière. Ça peut être une idée déjà pour commencer. Sur les petits comptes, ça va être en no code. Voire ça va être sur des gens qui sont déjà inscrits, qui sont en égo, et puis on va leur présenter autre chose, voir comment ils réagissent. En fait, c'est pas très grave de sacrifier une petite population à un moment. On peut toujours revenir en arrière bien souvent déjà d'une, et de deux, ça vaut la peine pour le futur. Donc faut pas trop avoir peur, parce que parfois il y a des trucs comme ça où on sait, là on a peur, mais parce que on a peur qu'on perde pendant 2 semaines des clients. Ah oui, mais si derrière ça te permet de doubler ton prix, let's go. C'est pas forcément un problème.
Et après, est-ce que sur donc vous faites le test, vous validez le test à partir de quand et au bout de combien de temps?
Alors ça, c'est une très bonne question. le test, on va le surveiller de près à ce moment-là. Donc on va regarder chaque semaine jusqu'à ce qu'il y ait une différence significative. Donc une différence significative, ça veut dire quoi? On peut pas regarder uniquement la donnée de vente, ça suffit pas, mais on va quand même commencer là, on va regarder le MRR. Déjà, est-ce que par rapport au nombre de deals créés, par exemple, et par rapport au nombre de contacts, on va essayer d'avoir différentes analyses pour pas se tromper, parce qu'en fait, on peut vite se tromper dans les analyses. On peut vite penser que on a raison sur un truc, mais les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'ils veulent. Donc s'il y a 3 points d'entrée différentes et qui disent toutes la même chose, ça va. Si c'est pas le cas, il faut peut-être attendre encore un petit peu. Et si c'est dans le mauvais sens, on arrête. Et donc, on va regarder, par exemple, par rapport au nombre de deals créés sur les 30 derniers jours, donc admettons c'est un mois plus tard, les 30 derniers jours, combien on a converti, sur quel plan, qu'est-ce qui marche mieux, quels sont est-ce que ça va plus ou moins vite, est-ce qu'on a fait plus de MRR, mais aussi est-ce qu'on a plus de clients, ou est-ce qu'on a autant de clients, est-ce qu'on a moins de clients? Parce que on s'est retrouvé, par exemple, à un moment vraiment à faire un choix, où on avait 2 fois moins de clients, mais autant de MRR. Donc là, en fait, tu t'es enlevé du support. Par contre, tu t'es aussi enlevé du referral. Donc ça se discute. Tu vois, on va regarder. Mais le significatif, il vient avec au moins un certain nombre de leads, un certain nombre de deals. Donc ça, après, ça vient avec le temps. Par exemple, sur les grands comptes, en fait, l'expérimentation, on va la surveiller d'assez près, de manière qualitative. Là, c'est pas très scientifique. Et après, de quantitatif, ça va être au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, là, tu vas regarder et tu vas dire, OK, est-ce que c'était bon ou pas? Et on améliore le truc. Mais en général, quand il y a un trop gros gap, de toute façon, tu le vois, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Et après, le détail, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est pas très grave de se tromper de 5% dans un sens ou dans un autre, tant que tu t'améliores au fur et à mesure du temps. Moi, je vois pas ma boîte sur 2 ans. Je la vois sur, tu vois, avec du sign au total, si ça dure 10 ans et qu'après, elle se rachète éventuellement, OK, mais c'est sur un horizon de 10 ans. Donc, ça veut dire que si c'est bon, dans 1 an, dans 2 ans, il n'y a pas de problème. Si c'est pas bon dans 3 mois, c'est pas grave. C'est un coût à payer, quoi.
Super intéressant. Je vois qu'en en plus de ça, on a bien débordé sur le timing. J'aurais bien d'autres questions, mais peut-être qu'on se fera. Je sais pas ce que t'en penses. Je réfléchis à la communauté sur SaaS Club et donc à faire des webinars et ça sera peut-être voilà. L'objet d'un live entre nous, on pourrait peut-être reparler de ça, mais là, bien. Là, je pense qu'on est pas loin d'avoir un épisode record. Peut-être juste pour clôturer l'interview, avant de te poser des petites questions, rapides pour finaliser tout ça. C'est quoi un peu tes challenges là sur les 6 à 12 prochains mois?
Moi, le principal challenge, c'est internationaliser du sign. Ça, c'est le truc qui occupe pas mal de mon temps. Donc là, on a recruté quelqu'un au Mexique, parce qu'on a des leads en Amérique du Sud, toujours avec le SEO, bien sûr.
Magique.
on a des leads aussi en Espagne avec le SEO. Donc on a quelqu'un là qui est focus dessus. Ça marche un peu moins bien, malheureusement. Donc là, c'est le vrai challenge pour nous. Et pour donner une idée, en France, la plus grosse université, c'est peut-être 30 000, 40 000 étudiants. Au Mexique, là, on parle d'université avec 350 000 étudiants, par exemple.
Ouais.
Donc, c'est assez assez fat, assez intéressant. Donc ça, c'est mon focus. Ça, c'est le truc qui est important pour moi. Après, il va y avoir les décisions produits qui sont aussi importantes. On a, donc comme je te le disais, la volonté de passer d'une commodité à une plateforme. Et dans ce cadre-là, il y a énormément d'intégration, notamment. Donc, il y a une app marketplace, là, je peux le dire. Elle est en train de finaliser, elle arrive avec des partenaires. Donc, d'habitude, c'est des intégrations juste dans le back. Là, ça va être des intégrations dans le front. Si demain, Eric, tu veux coder une application qui est visible de tous nos clients sur EduSign, tu vas pouvoir le faire dans le front et tu vas pouvoir la vendre. Éventuellement, nous, on prendra rien comme commission, donc comme Shopify, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et qui, j'espère, va aider sur le produit. Et c'est et donc le challenge, c'est ça, mais c'est surtout ce grand écart qui peut arriver entre les petits comptes et les grands comptes. Donc là, on se pose des questions sur, non pas est-ce qu'on abandonne les petits comptes, parce qu'on va pas les abandonner, mais est-ce que on les abandonne pas d'un point de vue sales, quitte à leur donner peut-être le produit même gratuitement ou beaucoup moins cher, peut-être même avec un peu moins de support, mais d'une manière différente pour se concentrer un peu plus sur les grands comptes. Peut-être avoir une version du produit qui est un peu plus complexe sur certains aspects pour les grands comptes et qui n'est pas forcément visible sur les petits comptes. Voilà, donc on réfléchit à ça. Ça, c'est un gros challenge. Après, je dirais le troisième challenge, bon, pour clôturer tout ça, c'est la culture. Mine de rien, nous, on est une boîte en full remote depuis le début. Il y a des gens que j'ai pas vus alors qu'on les a embauchés il y a 8 mois, on se voit 2 fois par an, et tout le monde n'est pas toujours là. Donc c'est important de réfléchir à ça, et c'est pas facile, je l'ai pas fait, donc on verra comment ça se passe, mais de croître une boîte en full remote en ayant quand même un esprit commun. Évidemment, la vie perso en full remote, c'est cool, donc ça a moins d'importance, entre guillemets, d'avoir l'apéro après, parce que derrière, ils ont autre chose aussi, et c'est bien, et moi je trouve que c'est cool. Par contre, il faut quand même qu'il y ait pas qu'une équipe de mercenaires, mais des gens qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est un challenge. Et d'autant plus qu'on commence à ajouter des managers. Donc c'est-à-dire qu'on voit plus les gens directement nécessairement. Moi, je vois plus 100% de ce qui se passe dans la boîte. Je vois beaucoup de choses. J'ai une vision bien transversale. Mais si même moi, qui ai la vision la plus transversale dans la boîte, ne vois pas tout, c'est qu'il y a des gens qui ne voient quasiment rien, entre guillemets. donc il faut faire attention à ça. Et ça, c'est une de mes préoccupations aussi pour 2024. Ouais.
Super clair, intéressant. Et sur la partie marketplace et culture, ouais, ça pourrait carrément faire l'objet d'un follow-up à l'avenir, et je me le note en tout cas. Je te pose une question pour clôturer l'épisode, puisque là on est vraiment sur un chrono record. J'espère que vous avez tenu jusqu'ici, et si c'est le cas, merci. Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous recommander pour que ce soit sur le business, sur le SaaS, voilà, quelque chose que toi qui t'a marqué et que t'aimerais bien partager?
Et ben moi, il y a le livre Made to Stick que j'adore, qui est sur voilà, sur storytelling, franchement très très chouette. Je m'y réfère pas assez, je pense, même d'ailleurs, et c'est vraiment très très cool. Et dans le même genre, un peu créatif, en fait, j'aime bien les livres qui sont pas que forcément sur le business pur sales, mais tu vois, aussi un peu créatif, qui donne d'autres angles de vue, on va dire. Et je trouve que Creativity Inc. du fondateur de Pixar est aussi intéressant, un peu dans le style. Voilà, deux livres que je recommanderais pour ceux qui souhaitent avoir un meilleur storytelling, je dirais, de manière générale.
Chose qui trop bien. Bah, écoute, je me les note, et puis en plus c'est des sujets qui m'intéressent. Donc bah écoute, merci beaucoup Elliot.
Merci à toi.
Très sympa. Je te dis peut-être à une prochaine sur un live ou un webinar, et moi,
avec
je
plaisir.
Vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.
Merci Eric.
SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métiers et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, Seclet. Encore merci et à la semaine prochaine.